Salut Lirza, salut Coraline.
Hello.
Salut Elio.
Que dire? Comment vous allez?
Moi ça va, merci. Soirée pluviale automnale, ça va.
Tout pareil. Et toi, ça va?
Un peu stressée ces temps par plein de choses, mais ça va, je suis contente d'être ici.
Ah cool, on est contente que tu sois là aussi, et le chat veut sortir.
Typique. Bienvenue chez les poissons sans bicyclette.
Merci. Nous sommes aujourd'hui avec une invitée. Salut Amandine.
Salut tout le monde.
C'est la première fois qu'on enregistre à quatre. Et le sujet du jour, c'est le véganisme. Donc on va parler régime alimentaire, style de vie vegan, conscience écologique, empathie pour les animaux. On va aussi parler de écoféminisme. On va parler d'antispécisme. Et ça va être ultra intéressant. On est là grâce à Elio. Elio, quand tu nous as contacté pour la première fois, t'as dit que t'étais ouvert à faire un épisode avec nous et que tu proposais une série de sujets. Et à l'époque, ce qui nous intéressait, c'était la non-binarité, mais t'avais aussi proposé le véganisme. Est-ce que tu veux dire deux mots? Pourquoi tu l'avais proposé? Qu'est-ce qui te motive pour faire ça avec nous?
Ça fait quelques années que je suis végane. Toute façon, on aura l'occasion d'en parler. Ouais. J'ai réfléchi aussi avec le temps, avec mon éveil féministe, qui s'est fait un peu en même temps que tout ça. En fait, j'ai un peu tous mes éveils militants en même temps, à part l'écologie qui était arrivée plus tôt. Bref, on parlera de tout ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait des ponts à faire entre la façon dont on exploite les animaux et la façon dont on exploite les femmes et les minorités de genre. Et je pensais que ça avait vraiment sa place dans un épisode des poissons sans bicyclette.
Cool, merci beaucoup de l'avoir proposé, c'est vraiment, je trouve aussi c'est très pertinent. Où est-ce que tu veux présenter Amandine, Elio?
Alors Amandine, j'ai noté que t'avais bientôt 30 ans, félicitations. t'as grandi à La Chaux-de-Fonds, la plus belle ville du monde.
Oulala.
bon, je vais essayer de faire ça sérieusement. T'as grandi à La Chaux-de-Fonds, t'as étudié à Genève et maintenant t'habites à Lausanne avec tes deux chats. Tu es traductrice de formation et tu travailles actuellement pour SuisseVeg, qui est la plus grande association végane et végétarienne de Suisse. Rien que ça. Tu es aussi DJ et passionnée de musique électronique, même si ça sera pas le sujet du jour. Il y a deux mois, t'as répondu à mon annonce sur un groupe Facebook végane pour participer à cet épisode des poissons sans bicyclette, et c'est comme ça qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Merci d'avoir répondu.
Avec plaisir.
Ouais, alors on va commencer par un petit tour de salon de nos régimes alimentaires respectifs.
Yes.
Et je m'en proposais que ce soit toi, Coraline, qui commence.
Parce que c'est moi la moins végétarienne de tout le monde. oui, moi je suis pas végétarienne du coup, je suis pesco-végétarienne, je ne mange pas de viande depuis 3 ans et demi. C'est un long chemin, je fais les choses lentement. Pour moi c'était beaucoup la conscience écologique. Et pendant longtemps, quand j'habitais seule, je continuais à manger de la viande, mais je m'en faisais jamais à manger. Et puis ça a duré quelques années et quelques reportages à regarder sur la consommation de viande et de produits animaux en général. Pour finir par me dire... Non, en fait ce qui a changé pour moi à un moment, c'est que jusqu'ici, le côté... empathie pour les animaux m'intéressait moins que le reste, jusqu'à un jour où en fait je me suis dit en fait non, j'ai pas envie de manger des bébés cochons. Les bébés cochons c'est très mignon, et puis d'autres trucs, voilà, juste à me dire en fait c'est vraiment ce côté empathie pour les animaux qui m'a fait me dire en fait j'arrête.
Donc en fait t'as commencé par une certaine éco-responsabilité,
oui.
Et tout d'un coup t'as eu un déclic empathique pour les animaux.
Ouais, ça a vraiment été ça, ouais. Parce que pendant longtemps, j'étais très consciente du fait que, ben voilà, à niveau écologie, c'est pas super. Ce qui m'a vraiment fait basculer, c'est ce côté empathique pour les animaux. Puis je suis actuellement là-dedans, mais je sens qu'il y a toujours des choses qui évoluent, puis je suis toujours très intéressée par la question en général, et puis je sais que c'est pas très cohérent. Je suis assez... OK avec le fait de pas être cohérente pour ouais. l'instant, parce que ça s'est arrêté un peu très vite dans le ouais. chemin, en se disant en fait il y a pas de petites vaches qui sont tuées parce que j'en mange pas, alors que ouais. c'est pas vrai. Il y a matière à évoluer, et que pour l'instant j'en suis là, et que petit à petit je vais lâcher d'autres choses, je pense. Le poisson là, you're next.
Ouais, c'est ça.
Bientôt je te fous la paix.
Ouais.
OK, merci. Et toi, Lirza?
Donc moi je suis végétarienne selon les étiquettes, c'est-à-dire que je mange pas de viande, je mange pas de volaille qui est aussi de la viande.
Si jamais
je mange pas de poisson, mais je mange des produits laitiers, même si je les ai baissés. Donc ça fait 1 année et demie que je suis végétarienne. De mon côté, c'est clairement l'empathie pour les animaux qui a fait que je suis devenue végétarienne. J'avoue que à ce sujet, j'étais pas du tout dans les réflexions de responsabilité écologique, parce que mon radar était vraiment sur l'empathie. Depuis que je suis toute petite, j'aime beaucoup les animaux, et à chaque fois je faisais des remarques face à une assiette avec de la viande, et j'avais une réponse de ma famille qui est très classique, hein, qui est genre non mais c'est normal, tout le monde en mange, c'est un peu l'ordre naturel des choses. Et du coup, j'étais très compartimentée dans ma tête pendant très longtemps, avec une l'espèce de dissonance que je pense en connaît, j'aime les animaux, mais je me dissocie et je mange, en gros. Enfin, il y a un côté comme ça. Et j'avais un blocage, ça c'était assez marrant, avec les fruits de mer, parce que j'adore aller en Albanie en vacances au bord de la mer, et j'étais là, mais moi je peux jamais renoncer aux fruits de mer. Jusqu'à ce que l'année dernière, j'ai traversé plein de trucs psychologiquement, je suis passée aussi par de l'angoisse, mais tout d'un coup, je suis devenue plus alignée avec mon corps, en accord avec mon corps. J'ai eu quelques problèmes alimentaires aussi, et je sais pas ce qui s'est passé, mais tout d'un coup, j'ai dit vraiment non à la viande, et j'arrivais plus à manger de la viande. Et ce que je fais en ce moment, c'est que c'est comme toi, je crois, Coraline aussi, que c'est-à-dire de temps en temps, s'il y a un truc qui ça te manque vraiment, tu veux vraiment manger genre de la viande, tu te dis écoute, je vais me l'accorder une fois, parce que comme ça, ça évite de trop te frustrer. Et en fait, le fait est que j'arrive pas à le manger, parce que je pense que c'est ce côté un peu empathique. J'arrive pas, le moment vient, j'arrive pas à commander le poulet à la place du tofu, mais le fait que je me le permette mentalement, ça me calme, même si je le fais pas après.
Ouais.
Donc voilà, aujourd'hui je suis végétarienne, j'ai baissé les produits laitiers, et voilà, et je suis très bien avec ça en fait. Je suis vraiment très contente, je suis très soulagée d'arrêter de manger de la viande. C'est de soulagement, c'est le mot. Voilà. Et toi, Elio ?
Je crois que ça fait gentiment 7 ans que j'ai commencé à arrêter la consommation de produits animaux. C'était pour des raisons écologiques. Vraiment, l'écologie, ça a été le combat de toute ma vie qui a été le plus présent dans mon enfance et mon adolescence. Et puis après, je me suis beaucoup plus diversifiée. Mais du coup, je suis vraiment partie d'une réalisation... Bah, du coût écologique de la consommation des animaux et de leur exploitation, pas que pour la consommation alimentaire. J'ai fait un week-end avec mon frère qui habite en Belgique. On a fait un week-end vegan les deux, pour voir. Et puis en fait, bah, j'ai continué. Enfin, je me suis vraiment dit, en fait, c'est pas compliqué. Bon, j'avais quand même la chance d'avoir ma mère qui cuisinait pour moi la plupart du temps. Voilà.
J'adore. En fait, c'est pas compliqué qu'on me fasse à manger. Non, mais...
C'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait moyen, et puis bon, ouais. C'était quand même une période où ouais. À un moment, je me suis mis aussi à cuisiner plus à la maison quand j'étais à la maison, et bref, on s'est débrouillé. En tout cas, ne pas consommer de produits animaux, c'était pas compliqué pour moi. Mais à ce moment-là, comme c'était très pour la raison écologique, bah, je me laissais de temps en temps faire des exceptions en me disant, bah, en particulier si c'est des choses qui sont... déjà là, et puis par exemple, tout le monde partage ses repas, bah à ce moment-là, ça me coûte rien, enfin voilà. Et puis je pense que c'est à peu près un an plus tard, à force de côtoyer des gens véganes, parce que j'avais envie de manger végane avec des gens véganes, et puis de faire des actions véganes avec des gens véganes, bah je me suis rendu compte qu'il y avait aussi tout l'aspect antispéciste, qui parlait de l'empathie envers les animaux, qui parlait de comment est-ce qu'on exploite les autres espèces que l'espèce humaine. Et là, j'ai eu mon deuxième déclic et je me suis dit, en fait, je peux plus. Donc, je suis passée du jour au lendemain quasi végane à du jour au lendemain totalement végane.
Cool, merci beaucoup. Et toi, Amandine ?
Alors moi, ça a commencé par une considération pour les animaux. En fait, quand j'étais petite, c'était un peu comme toi, j'avais cette dissonance cognitive que j'ai mis en place assez tôt, où en fait je voyais qu'il y avait de la viande dans mon assiette, et quand j'ai commencé à conscientiser ce qu'il y avait derrière, je voulais juste plus qu'on me dise quel animal c'était. Si tu prononçais le nom de l'animal, j'avais vraiment plus envie de le manger, parce que j'arrivais à voir vraiment l'animal dans ma tête, et je me disais, j'ai pas envie de manger un morceau de ça en fait.
T'avais quel âge du coup ?
Peut-être 7 ans, 9 ans, quelque chose comme ça, tu vois. Mais ça restait quelque chose que voilà, je gardais pour moi. J'avais dit à mes parents, s'il vous plaît, ne me dites pas. Laissez-moi manger ma viande sans me dire. En fait, j'étais vraiment un peu consciente de ce truc de dissonance sans savoir poser le mot dessus, en mode, il faut que je puisse garder ça, parce que si tu me dis le nom de l'animal, je pourrais pas continuer à fermer les yeux, en fait. Et ça m'empêchera de le manger, de prendre plaisir à le manger et tout. Mais je pense que j'avais pas conscience que je pouvais aussi devenir végétarienne. Enfin, j'étais aussi très jeune à ce moment-là. Quand j'avais 14-15 ans, j'ai rencontré une fille, on est devenus très très proches, et en fait, elle était végétarienne. Et là, je me suis rendu compte que c'était une option pour moi, en fait, aussi. Donc j'ai suivi son exemple, elle était un peu plus âgée que moi, je la trouvais trop cool et tout, je suis devenue végétarienne comme elle. Et pendant un an j'étais végétarienne, puis on était très proches, elle et moi, et donc là c'était aussi ma maman qui devait s'accommoder en fait en faisant la cuisine exprès pour moi, toujours une 6000 viande à côté et tout. Puis en fait, quand j'ai... Enfin, cette amitié avec cette fille qui s'est un peu effilochée, petit à petit, j'étais toute seule végétarienne dans mon coin, j'avais plus personne autour de moi qui mangeait comme moi, en fait. Et j'ai commencé à me dire, finalement, ça sert pas à grand-chose ce que je fais. Enfin, j'ai pas vraiment un grand impact sur la vie des animaux si moi, toute seule, je mange pas de viande alors que toute ma famille en mange autour de moi. Donc ça m'a paru un peu moins sensé. Et petit à petit, j'ai recommencé à manger de la viande, du coup. Et c'est que quand j'ai déménagé toute seule que j'ai décidé de revenir à mon végétarisme. Et j'ai été végétarienne pendant une dizaine d'années. Donc j'ai commencé vers 18 ans, quelque chose comme ça. Pendant un an, j'ai continué à manger du poisson aussi. On pourra en parler aussi de la raison pourquoi et tout. Mmh. Ensuite, j'ai arrêté le poisson. J'ai, voilà, pendant une dizaine d'années, j'étais végétarienne. Et là, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis végane. Les aliments qui sont pas véganes, ça rentre même pas en ligne de compte, ça reste des aliments, ils sont devenus flous. Pour moi, je les vois plus. Mais voilà, ouais, donc ça fait 2 ans maintenant.
On a fait exprès, on a fait une graduation des régimes. Et il y a ce sujet dont tu as touché un mot, c'est pourquoi il y a plein de gens à qui je dis je suis végétarienne, mais ils me disent « Ok, mais tu manges du poisson quand même ». Il y a même des gens qui disent « Oui, mais c'est du poulet, tu peux le manger ».
T'as eu souvent des gens ?
J'ai eu une fois. Et j'ai eu des récits d'autres gens à qui on dit « Mais c'est du poulet !» Et on se demandait, en préparant l'épisode aussi, puis peut-être Coraline, du coup, tu pourrais en dire un mot, qu'est-ce qui fait qu'on a plus de peine à lâcher le poisson, à ton avis ?
Moi, je pense, alors, le côté empathique, ça joue à fond, quoi. Le côté empathique pour les mammifères et les oiseaux, c'est plus proche, parce que ça peut être plus des animaux de compagnie aussi. En tout cas, c'est plus présent dans ta vie, enfin, sauf si t'es fan de poissons, puis que t'as des aquariums chez toi, mais on n'a pas ce côté attaché, en fait, qu'on peut avoir, au moins qu'avec un chat, quoi. Et puis, couplé aussi, personnellement, avec le côté de la question environnementale, j'avais l'impression que le côté poisson et la mer, c'était beaucoup moins discuté. Après, c'était moi aussi, je m'intéressais à ce à quoi je m'intéressais, mais qu'il y avait un petit côté genre... bof. C'est l'eau, quoi, il y en a plein, hein, tu vois. Et puis, puis après, tu regardes des reportages, genre Seaspiracy, et t'es un peu là, ah, c'est nul. Je me rattachais avec ma grande naïveté au label de pêche durable.
Ah oui.
C'est une vaste blague, en fait.
Ouais.
J'ai des chiffres, en fait, j'ai envie de les sortir. Il parle beaucoup du concept du bycatching. En fait, ceux qu'on a attrapés, mais c'est pas ceux qu'on voulait. On veut attraper du thon, par exemple. On ramasse beaucoup plus de choses, en fait, enfin d'autres animaux qui ne servent à rien parce qu'ils vont pas être consommés. Et là, c'était l'exemple d'une poissonnerie, je sais pas comment on dit, en Islande. Donc, en un mois, ils ramassent 269 marsouins, genre 900 phoques de 4 espèces différentes, 5000 oiseaux de mer. Et ça, c'est une poissonnerie qui a un label MSC et qui a reçu des prix pour sustainable fishing.
Et tout ça, ça retourne dans la mer parce que de toute façon, enfin,
on
n'en fait rien en fait.
Ils sont morts, on s'en fout.
C'est des prises accidentelles en fait.
Voilà, prises accidentelles. Comme ça.
Et en fait, il y en a certaines qui peuvent être peut-être utilisées dans la pisciculture en fait. Ce qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'on se dit souvent que l'aquaculture, ça peut être une solution par rapport à ces problèmes de pêche et de surpêche, mais en fait, les poissons qui sont dans l'aquaculture, ils doivent être nourris avec des poissons qui doivent être pêchés dans la mer. Donc en fait, c'est complètement... c'est le poisson qui se mord la queue pour le coup.
Ouais.
C'est aberrant.
Non, c'est ça. Il y a le côté moins empathie parce qu'on se sent pas proche des poissons. Et puis, d'un côté écologique, j'étais un peu en mode de, ça va, c'est pas si pire, quoi. Et enfin, je recommande vraiment aux gens de regarder Seaspiracy parce que ça ouvre les yeux sur plein de choses. Et...
Donc Seaspiracy, c'est un documentaire qu'on trouve sur Netflix, c'est ça ?
Indeed.
Cool.
C'est la suite de Cowspiracy.
Ouf, j'ai jamais vu. Et puis, moi, je trouve ça trop intéressant, ce côté empathique aussi. Ce que tu disais, je crois, Amandine, la dernière fois, Willio, qu'en fait, les poissons sont trop différents de nous aussi. Tu veux en dire plus, peut-être ?
Oui, c'est que le fait qu'ils vivent sous l'eau, qu'ils communiquent pas du tout avec des sons, ou en tout cas pas des sons que nous, on peut entendre, en fait, leur mode de vie, leur personnalité, ça nous échappe complètement, en fait. Leur structure familiale, leur structure sociale, comment ils gèrent leur vie, comment ils se déplacent, pourquoi ils se déplacent, dans quel but. On en connaît assez peu sur les poissons, de manière générale. Évidemment, il y a des gens que ça intéresse, qui vont se documenter là-dessus, mais je dirais que dans la population générale, les poissons, c'est des créatures qui sont assez cryptiques pour nous, et on se pose pas plus de questions que ça sur eux. Et il y a un peu ce truc de peut-être s'ils crient pas, ils souffrent pas. Enfin, on n'arrive pas à les entendre crier quand on les voit se débattre à l'air libre et tout. On se rend bien compte qu'ils sont pas très bien, mais je pense qu'on n'arrive pas à se rendre compte, à se représenter leur souffrance parce qu'on ne les entend pas.
Okay.
Il y a ce truc d'être muet. En plus du fait que évidemment c'est pas des mammifères, donc je pense que c'est les plus éloignés de nous. Et ensuite il y aurait les oiseaux qui sont. Ouais, on arrive un petit peu à se représenter, mais quand même moins. Et ensuite on arrive par exemple au cochon, à la vache qui ressemble de plus en plus à nos animaux de compagnie, puis à nous-mêmes. Et du coup, ce sera peut-être pour eux que ce sera le plus facile de développer une empathie de prime abord.
J'ai pensé à un truc quand tu parlais, c'est que moi, mon premier déclic quand même, enfin, sans parler de l'enfance, mais en tant qu'adulte, c'est le livre Sapiens de Harari.
Mm-hmm.
Donc, je pense Harari, on peut le critiquer sur des trucs, mais moi, j'avais beaucoup aimé ce livre Sapiens parce que justement, il démystifie énormément de trucs et les mythes de l'humanité qu'on a ensemble, il dit simplement si jamais ça, c'est un mythe. Et il parle de la question des animaux, mais de manière tellement factuelle. Ça, j'avais trop apprécié qu'il mette l'étude de ce qu'on fait aux animaux au même niveau d'importance que l'étude de la démocratie, du communisme, voilà. Et vraiment, je me rappelle qu'il finit ce chapitre avec une phrase « Ce qu'on a fait aux animaux, c'est une des atrocités les plus grandes que l'humanité a commises, en fait.
Mmh. »
Et c'était tellement factuel que ça m'avait trop touchée, si jamais je conseille ce livre pour ça aussi. Parce que t'es pas en train de lire un livre activiste, et t'es pas en train de lire un livre sur ça.
Mmh.
Et tout d'un coup, ça te vient dans la gueule, et c'était super.
Il y a un courant philosophique qui dit qu'en fait, il y a suffisamment de chances que les animaux soient vraiment sentient et se rendent vraiment compte qu'il faudrait vraiment absolument qu'on arrête tout de suite parce qu'en fait, éthiquement, on va jamais s'en remettre de ces années d'exploitation.
Moi, quand j'ai eu le déclic, là, je suis devenue végétarienne, je me rappelle que je me suis vraiment dit la phrase « Ce sera quoi mon excuse un jour ?»
Par rapport au poulet... Et au poisson aussi. En fait, je pense qu'il y a aussi la confusion qu'il y a des personnes qui sont végétariennes pour la santé. Et puis, en fait, c'est surtout la viande rouge qu'on essaie d'éviter. Je pense qu'il y a aussi un petit peu le côté « Ah oui, ah, c'est bien, t'as raison de pas manger de viande rouge, mais le poulet, le poulet, le poisson, c'est OK, quoi. » Le poisson en particulier, il est quand même vu comme un truc assez sain.
Bon, après, il faut dire aussi que le poisson, à l'heure actuelle, il est chargé de métaux lourds et il est pas si bien pour la santé que
ça.
Non,
c'est clair.
Et puis, on peut aussi dire, vu qu'on en a parlé, qu'effectivement, la viande rouge est transformée, elle est classée comme cancérogène par l'OMS et la viande rouge... tout court, elle est classée comme probablement cancérogène. Donc effectivement, c'est pas mal d'éviter d'en consommer.
Ouais.
Et sur l'empathie, je voulais dire aussi que moi, un truc qui a fait que longtemps, j'ai pas du tout eu d'empathie pour les animaux, c'est que j'ai grandi à la campagne avec... Bah, genre, chez mes grands-parents, il y avait des lapins et des poules. Chez ma tante aussi, j'ai déjà vu des animaux, genre, égorgés, en train de se vider de leur sang, des choses comme ça. Désolée pour l'image. En fait, j'ai grandi avec le fait que ça existait et que... Vraiment, les animaux, ils étaient inférieurs à nous et c'était les gens faibles qui avaient de l'empathie. Je me souviens vraiment avoir pensé ça d'une végétarienne quand j'avais 17-18 ans. Je l'estimais jusqu'ici, mais en fait, elle est un peu faible. Elle a de l'empathie pour les animaux et elle en mange pas, quoi.
Je pense que c'est vraiment lié au contexte où t'as grandi. Et j'imagine qu'il y a encore plein de personnes qui vivent dans des contextes comme ça, un peu plus ruraux et qui ont encore cette mentalité-là. Et je pense que sûrement qu'à une certaine époque, où notre survie dépendait de la consommation d'animaux, ben, c'était une mentalité qui était gagnante parce que tu les consommais pas, ben t'as mourir. Donc voilà. Et donc ça a perduré encore dans ces milieux-là, mais c'est vrai que en fait, plus on avance, plus on se rend compte que c'est pas une nécessité de consommer et donc c'est pas non plus forcément une faiblesse que d'arrêter.
C'est difficile. Moi je me souviens avoir entendu il y a pas longtemps, il y a quelques années, mon oncle parlait d'un abattage et ça me fait bizarre de me dire que des membres de ma famille font ça. Et c'est vrai que si je vivais encore là-bas et dans ce milieu-là, je pense que ce serait trop difficile, quoi. Je pense qu'il y a vraiment un côté protection de... Tu peux pas juste te dire que le reste de ta famille est en train d'abattre des êtres sentients qui vivent leur vie et qui peuvent pas vivre leur vie parce qu'on les abat, quoi.
Est-ce que tu peux faire une petite définition du mot sentient ?
Est-ce que, Amandine, tu es mieux placée que moi pour faire une définition de ce mot ?
On peut essayer de la faire ensemble, si tu veux. J'ai pas noté comme ça de définition, mais pour moi, un être sentient, c'est un être qui est doté d'une conscience, donc ça veut dire que c'est un être qui peut avoir des souvenirs, en fait, et puis qui peut avoir des douleurs, toutes sortes... d'émotions, en fait, et de sensations physiques et mentales, du coup.
Est-ce que c'est aussi lié à la conscience réflexive, c'est-à-dire c'est un être qui peut souffrir et être conscient qui souffre ?
Je me demande s'il n'y a pas une différence, justement, entre la sentience et la conscience, et que c'est pour ça qu'on utilise deux mots différents, que la sentience, c'est vraiment plus... Bah, en tout cas, c'est un être qui est capable d'avoir des émotions... de créer des liens potentiellement pas au niveau de la conscience.
En fait, il n'est pas forcément conscient de lui-même, typiquement. Un chat, il ne va pas se reconnaître dans le miroir. Cette conscience de soi, peut-être qu'il ne l'a pas à ce niveau-là. Donc ça dépend toujours de où est-ce qu'on la place, en fait.
Mon chat croit que le miroir est une fenêtre.
Moi, c'est genre c'est un objet qui est là et qui n'a aucune raison d'être particulière, je pense. Mais il n'y a aucune réaction, quoi. Alors qu'il y a certains chiens, j'ai déjà vu des vidéos de chiens qui se reconnaissent, qui se font peur, qui s'aboient dessus dans le miroir. Peut-être qu'il y en a qui se reconnaissent, d'autres pas. Enfin, ça peut être un critère pour délimiter la conscience, mais c'est assez subjectif parce qu'il y a pas mal d'animaux qui vont peut-être pas se reconnaître comme ça. Mais je pense quand même qu'un chat est conscient d'exister, ça c'est sûr. Il est conscient qu'il souffre. Il est conscient qu'il a faim, il va venir te le réclamer et tout. Et en fait, voilà, c'est vrai que c'est une notion assez vague. Bon, on peut peut-être la googler pour avoir un...
Alors, je vais faire ça. Selon Larousse.fr, pour un être vivant, capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être, etc. et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. Wow.
Donc il peut créer des expériences de vie et ressentir toutes sortes d'émotions.
Et c'est déjà prouvé pour pas mal d'animaux qu'on consomme.
Oui.
Ouais.
Y compris les poissons, typiquement. Voilà, quoi.
Et depuis longtemps, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de ce truc que j'entends souvent, et je suis assez souvent sur le cul, mais c'est la fameuse phrase « végétarien, je comprends, vegan, ça va trop loin ». Ce que je peux dire déjà de mon côté, c'est que si on parle de l'empathie pour les animaux, il y a un côté, c'est bon, on les tue pas. Les vaches sont juste là, on les... Enfin, à traire les moutons, voilà, on les rase, on fait quelque chose de leur laine et tout ça.
C'est naturel.
Et puis c'est OK, et puis c'est comme ça. Pour ma première réaction personnelle est que, pour moi, au niveau de l'empathie, c'est quand même atroce d'avoir transformé des êtres vivants dans des machines productrices, en fait. Faire du lait, avec une vache, c'est vraiment un peu la traiter comme une machine, et moi ça je trouve atroce. Enfin, je continue malheureusement de manger là, des produits laitiers, moins qu'avant. Déjà au niveau de l'empathie, moi je trouve ça terrible. Mais je sais, Amandine, en plus, t'as d'autres infos.
Oui, alors bon, déjà, de mon expérience personnelle, je peux dire qu'au début aussi, je pensais comme ça, je pensais que végétarien, ok, je refuse de manger du cadavre, ça m'appartient, puis ensuite le reste, bon bah on les tue pas, donc ça devrait aller, mais je pense que ça vient aussi beaucoup d'une mésinformation, et ça vient aussi beaucoup des lobbies.
Ouais.
Enfin, typiquement, le lobby du lait est très très puissant en Suisse, il a beaucoup d'argent, il a vraiment, il déploie des moyens publicitaires assez impressionnants pour nous donner une image vraiment idyllique du lait en fait en Suisse et des vachetières, de leur vie, etc. Et typiquement, là c'est le lobby de la viande qui a fait une étude assez récemment, et en fait dans cette étude ils ont demandé aux gens différentes choses pour savoir un peu quelle était déjà leur image de la viande suisse et tout, et aussi quel était leur niveau de connaissance en ce qui concerne l'industrie laitière et l'industrie de la viande. Et en fait, je sais plus maintenant exactement le pourcentage, mais vraiment plus de la moitié des personnes interrogées ne savaient pas que pour donner du lait, la vache doit donner naissance à un veau. Donc quand on en est à ce niveau-là en fait de connaissance, forcément qu'on peut se dire ben c'est ok, on prend le lait, la vache elle le donne de toute façon, elle a tout le temps les petites peines, on va juste le lui prendre. Ouais. et tout va bien.
Moi je me souviens d'une personne qui a travaillé avec des vaches et qui me disait mais tu sais, au moment de la traite elles se ruent pour venir se faire traite.
Bah oui, très mal.
Et si on leur laissait leur veau l'était très à son moment pendant la journée, ça se passerait tout seul, elles auraient pas besoin de se presser pour venir se faire traite. Parce qu'elles sont sélectionnées depuis des dizaines d'années, centaines d'années pour produire le plus possible de lait alors que le veau on n'a pas besoin. Enfin bref, il y a totalement un mythe, une méconception derrière.
Oui, c'est vraiment, y a vraiment un mythe là et je trouve ça fascinant. Moi j'ai appris, je pense, il y a un peu plus de 10 ans, ce qui est déjà dramatiquement tard, hein, que justement en fait les vaches ne font pas du lait H24 parce qu'elles sont faites comme ça. Et maintenant je m'amuse à souvent dire ça en soirée et voir la tête des gens. Parce que récemment, j'ai appris à une copine que non, les vaches, elles font pas du lait tout le temps, en fait. Enfin, c'est pas... Oui, on voit des vaches laitières, mais en fait, c'est comme les autres mammifères, en fait. Il faut qu'elles aient eu un veau, et du coup, on les insémine, et puis on leur enlève leur veau, en fait. Moi, je trouve vraiment, alors, les lobbies du lait ont fait un job...
Moi.
Waouh. Alors, ils ont rebrandé ça, mais picobello, pour qu'on soit comme ça largué. Hein.
Oui, et puis on se dit, ben, c'est nécessaire pour le calcium, pour les calcium. Os. Et okay. c'est impératif d'en manger ou d'en consommer tous les jours et tout. Puis c'est un aliment qui est naturel, qui fait partie de notre mode de vie.
Enfin, oui.
On y voit vraiment que du bien, alors que finalement, c'est pas un aliment qui est si sain que ça, et c'est pas non plus un aliment qui est absolument essentiel pour nous. Donc voilà, moi j'ai noté des choses là-dessus qui justement vont faire le lien en fait avec le côté féminisme. Parce qu'en fait, effectivement, on imagine souvent que manger de la viande, c'est pire sur une échelle morale que de consommer des œufs ou des produits laitiers, parce qu'on va pas manger directement un animal mort. Mais en réalité, justement, comme on a pu dire, la souffrance qu'il y a derrière ces produits est tout aussi terrible, et presque pire, en fait, justement parce qu'on exploite un même animal pendant très longtemps pour ses capacités reproductrices, et ensuite l'animal, effectivement, on l'envoie à l'abattoir, donc il va aussi mourir au final. Mais en plus de ça, l'animal en question, il est femelle, et c'est là en fait que je ferai un vrai lien entre le végétalisme et le féminisme. Parce que peut-être que pour une personne végétarienne, voilà, on se dit « je refuse que les souffrances soient infligées à des animaux pour me nourrir, donc je mange pas de viande », et ça s'arrête là. Mais en fait, ce raisonnement-là, il occulte les souffrances des animaux femelles. Sous prétexte peut-être que voilà, elles sont faites pour ça, elles sont faites pour donner des œufs, elles sont faites pour donner du lait, ça les dérange pas, que leur rôle c'est de donner et que nous on prend, parce que du coup elles sont dominées et nous on est dominants. Et en fait, je pense qu'on se rend pas compte que c'est une logique qui est non seulement spéciste mais aussi sexiste. Mmh. Et que donc choisir un mode de vie végétalien ou vegan, c'est aussi refuser de cautionner ce système-là, et c'est de refuser de se dire que... Parce que ces animaux sont femelles, alors leurs souffrances ne sont pas valides.
Et ça parle vraiment de ce manque d'empathie ou cette empathie plus basse qu'on a pour les femmes. Ça s'étend aux animaux et aux femelles des animaux.
Wow.
Ouais, merci pour cette réflexion. Et t'avais raconté aussi, Amandine, quand on s'était vu, que c'est même pas complètement juste de dire que si je mange du fromage et des produits laitiers, ça fait pas tuer les animaux, parce que justement, les vaches doivent faire des veaux. Et qu'est-ce qu'on fait à ces veaux, en fait ?
J'ai les infos pour les vaches laitières et pour les poules pondeuses, qui justement sont les femelles animales peut-être les plus exploitées par nous. Mm-hmm. Donc les vaches laitières, déjà, comme l'a dit Elio, elles ont été sélectionnées pour leur performance à la production depuis des années. Donc c'est des vaches qui produisent maintenant énormément de lait. Ouais. Elles sont inséminées artificiellement et contre leur gré chaque année. Donc elles passent la majeure partie de leur vie enceinte. Lorsqu'elles mettent bas, on leur arrache leur veau immédiatement pour les empêcher de créer un lien avec le veau. Ce qui leur cause une souffrance émotionnelle hyper intense. Les vaches vont appeler leur petit, le chercher constamment pendant des jours. Et si c'est un mâle, effectivement, le veau va être envoyé à l'abattoir.
Direct.
Oui, au bout de très peu de temps, disons. En réalité, la viande de veau, c'est un sous-produit de l'industrie du lait.
C'est ça, en fait. Donc, en fait, quand tu manges du lait, t'as fait tuer des veaux.
Oui, ouais. Automatiquement, ouais. T'as fait tuer des veaux. Et les veaux, ben voilà, on va leur refuser le lait de leur maman, on va les nourrir avec de la nourriture artificielle. Enfin, c'est de toute façon pas ouf. Et j'avais retrouvé cette... Il y avait un fait divers absolument incroyable, c'était l'histoire d'une vache qui était une vache laitière, donc qui avait mis bas, et on lui avait retiré son veau, le veau était parti à l'abattoir et tout s'était passé de manière traditionnelle. Et puis elle était traite deux fois par jour, donc le matin et en fin de journée. Et le matin, à chaque fois, la production de lait était bonne, le rendement était bon, les fermiers étaient contents. Mais en fin de journée, à chaque fois, il y avait presque rien dans ses pis. Ils se demandaient, mais pourquoi elle produit le matin, mais en fin de journée, il n'y a rien. Et un jour, ils l'ont suivi, en fait, dans la journée, ils ont vu qu'elle avait, en fait, mis bas à deux veaux. Elle avait eu des jumeaux, et il y en avait un qu'elle avait réussi à les cacher quelque part dans les bois. Oh, et donc, en fait, God. Ça veut dire que cette vache avait eu la conscience qu'elle ne pourrait pas sauver les deux, qu'il y en avait un des deux, forcément, qui allait subir la même sort que tous les autres, mais vu qu'elle en avait eu deux, elle pouvait juste aller le planquer et espérer lui offrir une vie digne de ce nom. Et donc, en fait, tous les jours, elle allait le nourrir, lui donner du lait, puis le soir, elle rentrait. Et c'est une histoire juste terrible, quoi, de se dire, en fait, qu'il y a quand même toute une conscience dans cet animal, et c'est pas juste un animal bête qui est là à manger de l'herbe, puis à traînasser toute la journée, puis à rien penser avec ses grands yeux, en fait, pas du tout, quoi. Et évidemment que dès que le fermier a compris ce qui se passait, ben voilà, le veau est parti à l'abattoir aussi. Sur cette belle histoire, je vais continuer avec le fact-checking. Voilà, et puis donc les plus performantes des vaches laitières produisent jusqu'à 12 000 litres de lait par an. Donc en fait, c'est une surexploitation qui est intenable, qui cause souvent des maladies, notamment des infections du pis. Et après quelques années, forcément, la production de lait va diminuer. La vache ne peut pas tenir ce rythme, c'est juste impossible. Et dès qu'elle ne tient plus le rythme, dès qu'elle n'est plus rentable, elle est envoyée elle aussi à l'abattoir. Donc les vaches, naturellement, elles auraient une espérance de vie de 20 ans, mais leur espérance de vie dans la filière laitière, elle est plutôt de 5 ou 6 ans.
Okay.
Donc voilà, c'est clair qu'on ne mange pas l'animal mort, mais ce qu'il y a derrière n'est pas vraiment beaucoup plus joyeux, quoi.
Non. Ça me fait penser que mes parents vont chercher souvent des œufs à la ferme. David, c'est ce côté un peu mignon de « je vais chercher mes œufs à la ferme » et c'est cool. Et jusqu'à ce que ta mère te dise « ah, cette semaine, il n'y a pas d'œufs parce qu'ils changent des poules, en fait. »
Oh putain.
Et en fait, t'es un peu là « mais elles sont où les autres poules ? Mais les anciennes, elles vont où ?»
Ouais,
et en fait, ça fait complètement partie du système. C'est juste, ben oui, on a des poules qui sont là pour pondre, mais en fait, on les change dans ma tête, c'est tous les ans.
Oui, exact. Du coup, les poules, c'est la même chose. Elles sont sélectionnées en fonction de leur productivité, ce qui fait que la génétique a évolué et que maintenant, elles pondent presque un œuf par jour. Elles pondent environ 300 œufs par année, sachant que leurs ancêtres pondaient seulement 12 à 20 œufs par an.
Wow.
L'évolution est quand même énorme, quoi. Leur corps n'est pas fait pour pondre autant d'œufs, donc elles se retrouvent avec des carences alimentaires importantes. L'année dernière, il y a une étude qui a révélé qu'en Suisse, 97% des poules ont des os cassés, en fait, juste parce qu'elles ont des carences, elles se cognent, ça casse, enfin voilà, elles sont fragiles. En plus de ça, elles vivent entassées les unes sur les autres dans des conditions terribles, donc on doit leur couper la pointe du bec pour éviter qu'elles ne se blessent entre elles, parce que sinon elles se piquent, il y a du cannibalisme, enfin elles s'énervent les unes contre les autres. Évidemment, dès que la production de la poule pondeuse passe en dessous du seuil de production souhaité, soit au bout de 12 à 15 mois, donc effectivement presque tous les ans, elle est aussi livrée à l'abattoir où elle sera transformée en fourrage.
Ouais, en plus, c'est pas...
Après, ben voilà, les mâles ne vivent pas tout ça, donc les petits poussins mâles sont gazés à la naissance pour servir d'engrais ou de fourrage animal.
Ok, super.
Ils ne peuvent plus être broyés, donc c'est la grande joie de la réglementation suisse, c'est que depuis peu, ils ne peuvent plus être broyés, mais du coup, ils sont gazés.
Okay.
Alors, effectivement, moi, j'ai été végétarienne pendant longtemps, et c'était toute une période où je ne connaissais pas toutes ces infos, et je pense que je savais qu'il y avait des choses terribles, mais j'avais peut-être pas envie de les connaître.
Ouais.
Enfin, maintenant, je travaille là-dedans, donc je suis confrontée à ces infos tous les jours. Je peux plus faire l'autruche, je suis obligée de renoncer à manger tout ça. Et au final, c'est assez facile, en fait.
Ouais.
Dès qu'on arrête, enfin, pour moi, en tout cas, dès qu'on arrête, je trouve qu'on prend le pli et j'arrive pas à m'imaginer revenir à ça. Et justement, comme je disais, j'ai vraiment l'impression quand je vais dans les supermarchés que les rayons avec des produits animaux, c'est juste flou. Je les vois juste pas, je les considère même pas comme une option. Puis ouais, c'est bien comme ça.
Moi, j'avais vraiment voulu mettre en évidence la façon dont on dispose des corps animaux et des corps des femmes et des minorités de genre. Et je pense que les combats pour l'avortement, les combats pour moins de violence médicale et notamment gynécologique... Tout ce qui combat la culture du viol, etc. Pour moi, il y a vraiment des rapports à faire avec la façon dont on dispose des corps animaux. Et on a parlé un petit peu de comment on insémine les femelles pour qu'elles soient tout le temps en train de produire. Mais je pense que si la culture du viol n'était pas aussi forte dans notre société, on pourrait pas violer, en fait, parce qu'on introduit quelque chose dans le vagin d'un animal. Enfin, pour moi, c'est ce que j'appelle un viol. On pourrait pas violer des animaux comme ça à la chaîne. Et que tous ces combats, ils ont aussi des racines vraiment sur la conceptualisation du corps des animaux et des femmes comme un bien à notre disposition, quoi. T'as déjà commencé à aborder un petit peu l'aspect on exploite les femelles d'une façon bien spécifique, et notamment pour leur côté maternel, tout comme on exploite les femmes, notamment pour leur côté maternel. Il y a clairement des liens à faire, et il y en a d'autres qu'on a un peu listés. Et puis je vais peut-être commencer par celui dont on parle le plus. Moi, en tout cas, c'est celui que j'entends le plus quand j'écoute des podcasts, etc. C'est la façon dont on incite les hommes à consommer de la viande. Et ce côté « Oh, moi, je consomme la viande, je suis un bonhomme, ouais. C'est plein de protéines, c'est de la viande rouge, ça saigne. » Enfin, un côté super macho.
Ouais. Ben, moi, j'ai typiquement les exemples en tête où dans plein de ménages, c'est la femme qui fait tout, qui cuisine, mais quand c'est le temps de faire le barbecue, c'est le mec qui sort sa pince et qui fait son barbecue, et tout le monde est là genre « Ah, trop bien !» Et c'est les femmes qui arrivent avec les saladiers pour accompagner la viande. Il y a un vrai lien entre mec machiste et mangeur de viande, quoi. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi ce lien, vraiment, avant on était chasseurs, enfin, c'est cet imaginaire qui s'avère même pas si vrai, mais que les hommes allaient à la chasse et les femmes nourrissaient leurs nourrissons, allaitaient quoi, leurs nourrissons.
Oui, et puis ils faisaient la cueillette, c'est toujours le chasseur, la cueilleuse.
Ouais, exact.
Qui, on sait maintenant qu'il y a en tout cas des tribus dans lesquelles c'était pas le cas.
Ouais.
Ça c'était pas distribué en fonction du genre.
Donc si t'es un vrai homme, bah tu achètes ton steak dans un plastique au supermarché, ok. Et puis en fait, et tu
comme
manges.
Les chasseurs
comme
de l'époque.
Chasseurs. Tu confrontes la caisse. C'est pas toi d'ailleurs qui fais ça, c'est ta meuf qui va acheter ton steak dans un plastique. Et ça fait de toi un vrai homme, comme les chasseurs. Ces hommes-là vont aussi activement dévaloriser les légumes. En anglais, on dit rabbit food, bouffe de lapin, quoi. Enfin, genre, c'est de la merde. En espagnol, j'ai entendu l'expression mariconerías. Maricon, c'est un mot insultant pour dire gay, et ça veut dire que c'est des affaires de gay, quoi, en fait, de manger de la salade. Ouais, j'ai déjà entendu ça.
C'est insultant à tellement de niveaux.
Oui, exactement, il y a beaucoup de layers.
C'est genre ding ding ding.
Exactement. D'ailleurs, tu vas peut-être en parler, Amandine, mais on sait que dans les statistiques, c'est plutôt les femmes qui sont végétariennes. En réfléchissant à l'épisode, le truc que je me suis dit, c'est que quand tu m'avais dit que la viande est déjà classée comme cancérogène ou probablement cancérogène, tout ça, il y a un truc aussi où le soin est relégué aux femmes. Donc en fait, c'est les femmes qui vont s'inquiéter de la santé. Dans un couple typique hétéronormatif, hein, je dis. C'est les femmes qui vont se dire « Non, mais on va manger équilibré, attention à ton cholestérol, à son mari. » Et le mec, il va dire « Oh, tu me fais chier. En fait, t'es une rabat-joie, tu me laisses pas vivre. » Alors que ce qui est dit, c'est juste censé, en fait. Mais le soin et faire gaffe à sa santé, c'est relégué aux femmes. Ouais. Et les hommes sont là pour vivre.
C'est ça, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de associés à la virilité qui sont plus nocifs pour l'environnement. Typiquement, avoir une grosse voiture, manger beaucoup de viande rouge, jeter ses déchets n'importe comment, sans faire attention, ou même juste être à la tête d'une entreprise qui brasse beaucoup d'argent et qui pollue beaucoup. Et la question, ce serait bah, justement pourquoi est-ce que ce serait plutôt quelque chose de viril. Mais comme tu dis, les femmes, elles sont sociabilisées pour être empathiques, assumer toute la charge du care dans les relations familiales, amoureuses, amicales. Et ben, je me suis dit que peut-être c'est justement pour se démarquer de cette sensibilité dite féminine, que certains hommes ressentent le besoin d'affirmer leur virilité à travers des comportements qui vont à l'opposé de ça, c'est-à-dire qui démontrent un « je m'en foutisme » royal vis-à-vis de l'environnement, des animaux, parce que, en fait, la compassion et l'empathie, c'est associé aux femmes, et donc c'est une forme de faiblesse. On revient à ce que tu disais, Elio, avant, quoi.
Ouais.
D'ailleurs, les hommes véganes, en anglais, sont appelés les « soy boys », garçons soja.
Ouais.
Et puis c'est vraiment,
c'est insultant,
l'utilisation
quoi.
Du garçon pour parler d'un homme et... Ouais, ben aussi parce que le soja, y a ce mythe que le soja a des trucs qui ressemblent à de l'œstrogène et que ça peut féminiser la personne. Alors oui, il y a des trucs qui ressemblent à de l'œstrogène, mais ça ressemble, c'en est pas et ça n'a aucun impact. Enfin, il y a rien qui a été prouvé là-dessus, le contraire.
C'est vrai.
C'est vrai que c'était un mythe qu'il y a des perturbateurs endocriniens et tout.
Ah mais non,
c'est...
mais parce que moi j'y ai cru. Enfin, on m'a vraiment dit fais attention, mange pas trop de.
Oui, non,
de
alors
tofu.
En fait, c'est pas prouvé.
ça circule encore absolument.
Ah ouais, absolument. Même de gens végétariens en fait qui me disent non, mais faut arrêter, faut pas manger tous les jours ou je sais plus quoi. Il y avait une.
Certes, il faut diversifier son alimentation.
De toute façon.
Pour d'autres raisons en fait, juste oui. Pas pour ça.
Donc moi j'y ai cru, si jamais. Je suis tombée dans le piège. Ouais.
Mm-hmm. Ça me fait marrer parce que je suis beaucoup de comptes de cuisine sur Instagram et ils sont tous véganes. Et récemment, j'ai découvert un peu plusieurs groupes de gars justement qui s'aident un peu à se promouvoir ensemble parce que justement ils sont en mode en fait les hommes véganes, les gens passent leur temps à se foutre de notre gueule, on est vraiment un peu contre-culture, voilà, on a créé un peu cette espèce de collectif pour un peu se soutenir là-dedans. J'étais un peu en mode j'ai pas l'habitude d'être en mode go man
d'avoir de l'empathie pour un groupe de mecs,
t'as... oui, mais en fait j'étais là ouais je comprends ce que vous voulez dire, je suis d'accord.
Ouais. J'ai commencé à regarder à l'écouter l'épisode des couilles sur la table qui parle justement de ces thématiques qui s'appelle nourrir son homme, le bon steak et le joli morceau. En fait justement c'était intéressant, j'ai pas beaucoup écouté parce que j'avais peur de tout répéter ce soir, mais il disait que manger de la viande c'était aussi une manière d'asseoir sa domination sur le vivant, mais il y a aussi le truc d'affirmer son rang social, donc les personnes qui ont le plus de moyens peuvent manger le plus de viande, et que du coup refuser de participer à cette consommation c'est se solidariser avec les animaux et peut-être avec les personnes avec moins de moyens, et donc c'est trahir un ordre social, c'est refuser son rang dominant et refuser le privilège qui va avec, et ça donne lieu à une réprobation sociale de la part des autres hommes, notamment des moqueries et de la ridiculisation, et du coup c'est moins grave pour les femmes de devenir végétarienne ou végane parce qu'elles sont déjà perçues comme des êtres de second rang, et que en fait du coup le végétalisme, le végétarisme c'est une menace pour la masculinité mais pas pour la féminité. Et que donc c'est plus facile pour les femmes de renoncer à la viande, parce qu'en fait, la viande, elle contribue pas à la définition de leur identité genrée, alors que pour les hommes, d'une certaine manière, elle en fait partie.
Ouais. Tu sais, souvent, quand je pense juste au sexisme en général, je me dis, mais cet ordre social est tellement millénaire que je comprends que c'est si difficile de... J'ai pas d'empathie, hein, mais juste je comprends que c'est ultra difficile de le défaire, quoi. C'est littéralement vieux comme le monde, cette domination masculine, mais cette domination sur les animaux, c'est encore plus... pire, enfin venir dire en fait, venir être antispéciste, dire en fait non, les humains ne doivent pas être supérieurs aux animaux dans ce rang social, oublie, moi j'ai l'impression que même plein de femmes ou personnes sexisées végétariennes ou véganes, je sais pas, hein, mais il y en a peut-être plein qui vont même pas jusque là en fait, de dire ok j'en mange pas parce que je veux pas les maltraiter, mais j'irai pas jusqu'à dire que on vaut tous la même chose, tu vois.
Ouais, bon, j'ai l'impression très conditionné quand même pour penser que l'être humain est au centre de tout, comme je disais avant, puis qu'on est au top de la pyramide sociale, alimentaire, etc. C'est difficile de changer la vie des gens là-dessus, et c'est vrai que ça peut paraître comme une position très très extrémiste.
J'ai adoré la tête que t'as.
Ouais. Et après, il y a aussi plein de gens qui arrivent en mode oui, mais comment tu peux dire ça et tout, enfin, comment tu peux accorder autant d'importance à cette problématique-là alors que, je sais pas, moi, il y a des enfants qui meurent de faim, puis il y a des exploitations, puis il y a ci, puis il y a ça, puis c'est sûr qu'il y a plein de problèmes, il y a plein de domination des humains sur les humains, d'exploitation des humains sur les humains et plein d'autres choses qui méritent, bien sûr, qu'on leur accorde de l'attention et tout. En fait, on n'est pas en train de dire que la cause animaliste est plus importante, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui se sentent peut-être piquées là-dedans, en fait, parce qu'ils ont l'impression, quand on parle d'antispécisme, que du coup, on met le problème des animaux au même rang que tous ces problèmes-là. Et en
non,
fait,
mais ça, c'est l'équivalent du « les hommes souffrent aussi ».
Ouais. Mais oui, c'est ça, c'est « not all men », c'est, tu vois, c'est ça, en fait.
En fait, on a tous et toutes des sensibilités différentes et puis des combats qui prévalent, quoi, enfin qui te parlent plus à toi. Et puis on peut pas se focaliser sur tout, puis c'est très bien de nous dire que oui, il y a des gens qui meurent de faim puis qui aimeraient bien pouvoir manger de la viande. Ben oui, mais on peut pas tout faire.
En fait, aussi si on avait une alimentation plus végétale, on pourrait beaucoup mieux nourrir l'ensemble de la population.
Ouais, en plus.
Donc
c'est clair.
Finalement, il y a aussi des choses qui se rejoignent. Enfin, c'est juste plus logique à tellement de niveaux.
Non, puis c'est ce que tu disais aussi, Coco, par rapport à ce truc les hommes souffrent aussi. C'est que si le reste du temps tu milites pas pour mieux nourrir les orphelins,
c'est juste
mais tu le lâches juste quand je te parle d'antispécisme, ben en fait c'est juste que tu veux juste me faire chier, en fait.
Il y a toujours des arguments, en fait, ouais, hein, des arguments un peu abracadabrants qui ressortent. J'ai l'impression que dès que tu arrives dans une pièce et par pur hasard l'info sort que tu es végétarien ou que tu es végane, il y a toujours un certain type de personnes qui doivent aller vers toi pour se justifier de leur consommation personnelle de produits animaux.
Ah oui.
C'est incroyable. J'en parlais à Lirza. T'es à table, au boulot, avec ton tube, un truc, et puis, je sais pas, on te pose une question, puis tu dis « Non, mais je mange pas de viande. » Et là, t'as pendant 15 minutes... les explications,
oui,
tout le monde
moi,
était là,
non.
Mais en fait j'en ai rien à foutre, hein, si jamais je vous ai rien demandé. Non, mais parce que tu vois, moi en fait je me considère flexitarien.
Ouais, voilà,
et puis en fait, je fais super attention. J'essaie de manger moins de viande, mais de la qualité, tu vois. Mais je n'ai rien demandé, en fait.
C'est ça.
Je ne fais pas partie de cette conversation. Tu as un monologue pour te justifier tout seul. Et je comprends tout à fait, parce que je suis sûre et certaine que j'ai fait ça à un moment ou un autre à des gens, pour aussi leur expliquer que je comprenais, mais que je faisais pas d'efforts. Et voilà, mais vraiment, c'est magique. Du coup, Lirza, tu confirmes, tu as la même expérience.
Je confirme, j'allais dire, moi ça m'arrive pas trop, et en fait ça m'est arrivé cette semaine. Comme toi, je comprends, il y a deux trucs que j'aimerais dire là-dessus. La première, c'est que flexitarien, la plupart des gens qui disent ça ou qui disent pas ça, mais qui disent, mais de toute façon, nous on mange pas trop de viande, on en cuisine jamais à la maison. Je les invite vraiment à réellement noter combien de viande elles mangent, parce que souvent c'est plus que ce que tu penses, et je dis ça par expérience personnelle. Mm-hmm. C'est qu'en fait, souvent on dit, on mange pas beaucoup de viande nous à la maison, parce que les gens imaginent le gros steak saignant dans la poêle, mais en fait le poulet c'est de la viande, le poisson c'est de la viande, le salami que t'as mangé dans ton sandwich à midi c'est de la viande, le thon dans ta salade c'est de la viande. Donc en fait, si tu commences à tout compter, tu manges, j'ai l'impression que beaucoup de gens mangent plus de viande que ce qu'ils pensent. Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. Et la deuxième, c'est est-ce que vous pouvez m'éclairer sur ces gens qui viennent demander concrètement ce que je mange pour trouver des incohérences dans mon régime alimentaire. Ça, j'adore. Ces mêmes gens me disent, moi d'accord, changer de régime alimentaire, valoriser les légumes, je trouve ça génial, comme ça t'ouvre ton esprit vers de nouvelles recettes. Ce que j'aime pas, c'est ce fait de pas lâcher la viande et de manger du simili-viande qui des fois a une pire empreinte carbone que la vraie viande. Est-ce que vous pouvez dire si c'est vrai, s'il vous plaît?
Destroy.
C'est faux. Ceci est faux.
Non.
Non, en fait, les simili-carnés, ils ont une très mauvaise réputation, surtout la réputation d'être ultra transformés. Mais en fait, ça vient vraiment des lobbies de la viande qui ont poussé ce terme ultra transformé à fond pour parler de ça. En fait, pour trouver un contre-argument aux simili-carnés, parce qu'en fait, les simili-carnés à aliment égal, disons, avec un saucisson, un faux saucisson, je sais pas moi, avec une tranche panée versus tranche panée, enfin, en fait voilà, à l'aliment égal, par rapport à l'aliment de référence, ils auront toujours une empreinte carbone plus basse, c'est sûr.
Beaucoup plus basse
Oui, vraiment beaucoup plus basse.
C'est simple, hein. Tu dois produire pour un truc à base de légumineuses et de légumes, tu produis que les légumineuses et les légumes dont t'as
Exactement.
besoin, tandis que si c'est à base d'un animal, bah tu produis tout ce qu'il faut à la vie de l'animal si on le tue à la fin, donc une vie entière de nourriture pour animal, plus d'eau, plus d'infrastructures, etc. Puis même quand on prend que les œufs, etc., bah on doit toujours nourrir l'animal plus longtemps avec plus de plantes que ce que ça demande la plante en elle-même.
Exactement.
Donc c'est pas vrai.
Et puis même le côté ultra transformé, en fait, il est débattable, quoi. Si on regarde la liste d'ingrédients qu'il peut y avoir dans une viande qu'on trouve en supermarché, emballée, etc., souvent, enfin, il y a aussi plein d'autres trucs qui sont ajoutés, une petite sauce, un petit machin, et puis parfois la liste, elle est hyper longue, je veux dire. Ça... Et puis si on compare vraiment le même type de produit, enfin, typiquement un nugget, un burger ou tout ce genre de choses, c'est aussi transformé.
Oui.
Les produits carnés, je veux dire. Donc en fait, à ce moment-là, vraiment, à aliment égal, ça s'équivaut. Il n'y a vraiment pas de problème. Enfin, il y a juste beaucoup de mauvaise publicité qui est faite là autour, juste parce que l'industrie de la viande a peur, alors qu'en réalité, vraiment, ces produits simili-carnés, ça représente même pas 1% des ventes de viande dans le monde, donc c'est pas comme si ça avait vraiment de quoi avoir peur à ce stade.
Ouais.
C'est vraiment très très peu.
Moi, j'ai eu ce même genre d'argument aussi avec par rapport justement au tofu, puis dire, tu sais, c'est pour ça qu'il y a la déforestation.
C'est
hein.
le pire.
Ah, oui.
T'es le soja. Et puis t'es là, oui, c'est le soja que je mange moi, c'est pas celui que ta vache a dû manger. En fait.
Exact.
Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Les vaches mangent du soja pour...
Ça fait partie du fourrage.
Oui, c'est ça, ça fait partie du fourrage, en fait. Et puis que du coup, qui c'est qui mange plus, moi ou une vache?
C'est débattable.
Ça dépend.
Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, juste, c'est que le soja qu'on importe, bon, déjà, on importe environ 800 tonnes de soja par jour, principalement provenant du Brésil. Et en fait, ce soja-là, vu qu'il vient du Brésil, il peut contenir des OGM, alors que c'est pas autorisé pour la consommation humaine en Suisse. Donc tout simplement, le soja qui est consommé par les humains, il viendra d'Europe. Il sera sans OGM. Donc en fait, tout le soja qui est consommé par les végétariens ou les véganes et qu'on peut nous reprocher de consommer parce qu'on déforeste, en fait, il vient vraiment d'Europe. Et donc, c'est vraiment le soja qui est importé pour nourrir les animaux qui est problématique. Et souvent, on a cette espèce d'idée que les animaux les nourrissent seulement avec de l'herbe suisse, des pâturages, et de nouveau, c'est vraiment faux. Donc, déjà, il n'y a que les vaches qui sont des ruminants avec aussi chèvres et tout, mais je veux dire, il y a tout ce qui est cochon, etc., on doit produire de la nourriture pour eux. Et même les vaches, en fait, on leur donne aussi à manger du fourrage qui vient de l'étranger, en fait. Et donc, il y a eu des gens qui ont voulu changer la labellisation viande suisse pour que seule la viande suisse dont tout le fourrage provenait aussi que de Suisse puisse être labellisé comme tel, en fait. Mais ça n'est absolument pas passé, parce qu'il n'y a aucune... La viande 100% suisse qui est nourrie qu'avec des aliments suisses, ça n'existe pratiquement pas, en fait. On cause beaucoup plus de tort à l'environnement en consommant des produits animaux que juste en consommant du soja qui vient d'Europe ou je sais pas.
Et puisqu'on est dans le sujet, généralement, il y a aussi « oui, mais après, tu dois te complémenter ». C'est vrai, je me complémente avec notamment de la B12, parce qu'il n'y en a pas dans les végétaux. Mais en fait, généralement, les animaux d'élevage sont complémentés aussi, sont bourrés d'antibiotiques, parce que, comme tu le disais, en fait, on les met tous ensemble, donc il y a des maladies qui s'installent, et donc on les traite tout le monde à l'antibiotique, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas la maladie qui s'installe. Bref, ça non plus, ça ne tient pas. Voilà, c'est dit.
Pour annoncer le reste des points, j'aimerais parler de écoféminisme et d'un déclic que moi j'ai eu à un moment donné, parce que comment moi je comprends l'écoféminisme, en tout cas, c'est pas simplement être féministe et avoir une conscience écologique, c'est en fait cette compréhension de la société actuelle qui est en fait que les hommes cis ont dominé la nature entière, en fait ont cherché à dominer la nature. Dans la nature, il y a notamment la nature, c'est-à-dire les paysages, les terres, les montagnes, les forêts, il y a les animaux, donc on a dominé les animaux, on les a industrialisés, on les a mangés, on les a élevés, tout ça. Et là-dedans, il y a aussi les femmes. Et je sais que des fois, c'est un peu choquant pour certaines personnes de l'entendre et pour certains féministes d'être mises en fait dans le même panier que la nature et les animaux. Dans l'écoféminisme, on voit comme ça la conceptualisation par le patriarcat du monde. Et c'est pas non plus très tiré par les cheveux, parce que souvent, c'est très reconnu que les hommes sont des êtres culturels qui transcendent la nature. C'est des êtres intellectuels qui inventent, qui créent, des artistes, des scientifiques, tout ça. Et les femmes sont complètement reléguées à la nature, c'est-à-dire elles ont leurs règles, elles saignent, elles accouchent et elles meurent. Quoi,
elles ont leurs émotions, elles sont...
voilà, exact.
Primaires, ouais, quoi. Elles sont aux prises au cycle de la vie.
Ouais, elles sont émotives, c'est par les tripes que ça se passe, elles ne sont pas des êtres intellectuel, l'intellect est censé transcender voilà, les émotions. Pour moi, c'est pas très tiré par les cheveux de tout de suite faire le lien que donc les femmes sont reléguées à la nature. Et pour moi, ça a du sens, parce qu'il y a eu, on parle souvent de la révolution scientifique, en fait, quand tout d'un coup, on a changé de point de vue sur le monde. Vraiment, on peut faire de lien tout d'un coup entre plein de choses, notamment même les jardins à la française, que je déteste d'ailleurs. C'est pas du tout joli. C'est vraiment ces trucs où on vient dans des jardins, on tire des lignes toutes droites et on dit genre, on va passer par là et on va planter des arbres en rangée et puis on les taille et puis c'est vraiment cette domination sur le monde. C'est un exemple juste visuel comme ça. Et donc dans l'écoféminisme, il y a cette vision du monde, en fait. C'est pas simplement je suis écolo et féministe, c'est en fait la domination des femmes et la domination des animaux et la domination de la nature. Tout est la même chose. J'ai pris l'exemple de comment on relègue les femmes à la nature, mais il y a aussi plein d'autres exemples où on voit que dans la culture actuelle, on égalise les femmes et les animaux. Notamment l'exemple que Elio, toi, t'avais, c'était les insultes.
Ouais. Ah ouais. Il y a plein d'insultes animales, en particulier pour les femmes. On a grosse vache, ouais, chienne, ouais, truie, baleine, pour les personnes grosses. Et il y a aussi toute l'inclinaison de la sexualisation à travers les animaux, ouais, de la tigresse, la gazelle,
avec cougar.
Avec ce côté prédation, soit c'est moi le prédateur, donc l'homme cis, ouais, hétéro, le prédateur envers les gazelles, les...
Puis en plus là-dedans, il y a aussi un peu de la fétichisation de femmes racisées souvent qui va avec.
Ouais. Ouais. Ça, d'ailleurs, vous en avez déjà parlé dans un épisode avec notamment ces termes-là qu'on utilise, qui sont animalisants, et puis il y a eu aussi les personnes racisées qui ont été comparées à des singes, qui le sont toujours dans certains endroits, oui. Dans certains discours. Vraiment l'utilisation de l'animal pour diminuer une personne.
Et il y a même des publicités où on voit des corps d'animaux sexualisés, on voit des animaux habillés comme des femmes, comme s'ils souhaitaient être consommés, donc il y a des parallèles vraiment genre « consomme-moi ». Donc tu mets un animal habillé comme une femme. Et on peut faire un parallèle avec l'objectivation du corps des femmes et leur sexualisation, c'est-à-dire tu les divises en morceaux, c'est typique ça dans les films, dans les pubs. Tu vois, que les jambes, que les cuisses, enfin vraiment. On en parle aussi dans Les coups sur la table, dans l'épisode que tu as cité. C'est assez bien étayé avec des noms de pubs, des noms de marques, tout ça. Donc on ne va pas refaire tout ça. Et quand tu as parlé aussi, Elio, de T'as dit quoi? T'as dit de inférioriser des êtres vivants à travers les animaux. Alors, ces parallèles-là ne sont pas du tout nouveaux, donc c'est envers les femmes. Mais il y a aussi tout un trigger warning maintenant, mais il y a tout un historique de, pendant la Deuxième Guerre mondiale et dans tout milieu antisémite, on dit interdit aux chiens et aux juifs dans un magasin. Il y a un film qui est actuellement au cinéma par rapport à l'immigration italienne en Suisse, interdit aux chiens et aux Italiens dans les magasins en Suisse. Donc en fait, c'est pas du tout tiré par les cheveux de faire ce parallèle. Que des êtres humains qu'on domine, c'est la même chose que des animaux qu'on domine, en fait.
J'avais pensé aussi aux zoos humains.
Ouais.
Où étaient apportés... Enfin, vraiment, c'était comme ça que c'était vu, quoi. On venait mettre dans des cages des personnes, soit qui ont des difformités, soit qui étaient racisées, qui avaient des traits un peu inhabituels.
Ouais.
Ouais, cette façon de... mettre en cage, enfin là pour le coup vraiment mettre en cage des personnes qu'on considère comme pas des vraies personnes.
Mais je pense que ça choque de faire le parallèle avec les femmes, parce que ça c'était avant, c'était le colonialisme, tu vois. Ou la Deuxième Guerre mondiale, c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est reconnu que c'est atroce, tandis que les femmes c'est tous les jours, c'est à la maison. Donc en fait ça choque un peu de dire aux gens, bah, en fait c'est similaire quoi.
Mais ça fait vraiment clairement du sens. De dire, ben, en fait, les causes sont liées. Je trouve l'aspect que Elio a mis en avant des insultes très intéressant, parce que c'est vrai qu'encore une fois, on n'a pas beaucoup d'insultes. Bon, déjà spécifiques pour les hommes, on en a déjà parlé, on n'y en a pas. Et le fait de justement, t'as dit le mot insulte pour des femmes, et j'étais là, ah ouais, truie, vache. Enfin, tu penses direct, t'as tout qui te vient à l'esprit. Et vraiment, à quel point l'homme est là pour s'asseoir sur tout, dominer le tout, quoi.
J'ai réfléchi à une insulte qu'on peut utiliser pour les hommes, c'est « porc », et c'est une insulte grossophobe, en fait.
Il y a grossophobe, mais il y a le côté aussi sexuel. Vicieux, sexuel, et je pense à plusieurs comme ça, par exemple, si on dit « chacal », un truc comme ça.
Mais c'est presque moins péjoratif.
C'est presque moins péjoratif, parce qu'il y a le côté où tu vas quand même être le dominant dans la situation, si t'es un porc, si t'es un chacal et tout, bah c'est quand même toi qui vas aller gratter pour obtenir ce que tu veux, des faveurs de la personne, etc. Après, je sais pas, j'essaie d'imaginer d'autres. Il y a par exemple blaireau, mais qu'est-ce que ça veut juste dire quoi, un blaireau? C'est juste.
Un bolos.
Un bolos, ouais. Ouais. Donc, il y en a quelques-uns. Mais même chien, par exemple, ben, ça sera aussi plus le côté bête sauvage, qui n'arrive pas à se retenir en fait.
Ouais.
Enfin, ça peut arriver, mais c'est vrai que c'est quand même moins commun et c'est moins dévalorisant effectivement que de dire ça à une femme. Quand tu dis à un mec, ah, t'es un chien, c'est là, on rigole, t'es un chien, mais quand tu dis à une meuf, t'es une chienne, t'es moins que rien en fait, t'es tout en bas. Et du coup, ben, c'est vrai que ça dénote le sexisme, puis en même temps le spécisme, parce que tu associes la chienne à, tu vois, quelque chose qui est vraiment tout en bas de l'échelle. Puis c'est assez intéressant de faire le parallèle. Bah c'est vrai qu'il y a ce rapport-là des écoféministes qui pensent que la domination patriarcale, elle est à l'origine d'un schéma psychique qui fait que les hommes se sentent donc en position de supériorité par rapport à l'ensemble de la nature et du vivant. Donc comme tu disais, ça inclut les animaux puis aussi les femmes. Et que donc, bah, c'est vrai que ce mécanisme-là, ça fait qu'ils se sentent presque légitimes de les dominer et puis de les instrumentaliser. Ouais, on pourrait se dire que c'est pour ça qu'il y en a autant qui se trouvent tout à fait bien dans leur basket puis dans la situation actuelle et ils voient pas où est le problème, juste parce qu'ils ont toujours été mis là-dedans.
Et je trouve que ce truc où on accepte le végétarianisme sous prétexte que c'est écolo, j'aime pas ça parce que ça contourne la question de l'empathie, en fait. Ça nous permet de l'accepter, mais pour des raisons, on en a déjà parlé, je crois, mais pour des raisons rationnelles. Et ça parle pas d'empathie et ça me saoule trop, en fait. Tu sais, les gens qui sont là, genre, que j'accepte parce que c'est écolo, je suis là, genre, je veux pas que tu acceptes, en fait. Parce qu'il y a aussi ce côté, on a parlé, je crois, c'est l'évolution de la bonne masculinité. Genre, qu'est-ce qu'on appelle de la bonne masculinité aujourd'hui à Lausanne en 2023? C'est souvent, c'est des mecs qui n'aiment pas les gros SUV, donc ça, c'est la bonne masculinité dans certains milieux. C'est des mecs, qui sont à vélo, quoi, en fait. Et c'est des mecs qui sont éco-conscients. Dans ce truc d'éco-conscience, on accepte le végétarianisme. Et je trouve que c'est pas la bonne porte pour évoluer.
Mais en fait, pendant tellement de temps, je pense que l'empathie, ça a été quelque chose, comme on a vu avant, qui était tellement associé à la féminité, et que c'est difficile pour eux peut-être d'avoir accès à ça et de se l'avouer comme ça, et que pendant longtemps, c'était être végétarien, végétarienne, enfin, c'était vraiment plus un truc de bonne femme, et c'était vraiment, comme on a pu le dire, quelque chose qui était peut-être lié à de la faiblesse, voilà, t'es trop sensible pour manger de la viande, quoi. Et le côté...
Aussi aux vieilles femmes.
Ouais.
C'est vrai ?
De toute façon, on sait que les personnes âgées consomment moins de viande rouge, notamment. Enfin, j'ai vraiment.
Je pense que c'est des questions de santé, sûrement, qu'elles peuvent plus. Enfin, que c'est recommandé par leur docteur qu'elles en mangent moins, sans doute.
Ouais. En tout cas, c'est le cliché qui m'est venu, là.
Ok.
Pourtant, il y a beaucoup moins de personnes végétariennes et véganes dans les tranches plus âgées de la population.
Oui, c'est vrai.
C'est beaucoup plus chez les jeunes, en fait. J'ai les stats, si jamais.
Oui, vas-y, lâche les stats avant. Okay. C'est le moment.
Alors, ce sont des chiffres pour 2022 et pour la Suisse. Alors à ce moment-là, il y avait 304 000 personnes végétariennes et véganes ensemble. Véganes à part, c'est 42 000. Donc ça fait 5,4% de végétariens et véganes dans la population Et uniquement vegan, c'est 0,7%.
Ah ouais.
Quelle menace.
Mais une grosse, grosse menace pour la société. Voilà.
On en parle comme si on a partout des vegans.
Ils sont partout, on peut plus rien manger.
Chez les personnes végétariennes, il y a 63% de femmes et 37% d'hommes. Chez les véganes, c'est 83,3% de femmes et 16,7% d'hommes. Ouais. Il faut savoir que le nombre d'hommes végétariens est en hausse. Donc c'est peut-être dû à ce que tu disais, cette nouvelle bonne masculinité. Presque la moitié des personnes végétariennes et véganes ont entre 14 et 34 ans. Deux tiers ont entre 35 et 54 et un tiers ont plus de 55. Et il faut aussi savoir qu'il y a plus de personnes végétariennes et véganes parmi les gens qui ont fait des études supérieures et aussi il y en a plus en ville qu'à la campagne. Voilà, c'était les stats.
Merci pour les stats. Tintintin.
Je trouve déjà très drôle que tu vois ce côté de ville versus campagne quand tu vas dans une autre Migros que celle à Lausanne. C'est magique. Vrai.
Vas-y.
Non, mais les différences suivant où tu vas, puis t'as pas besoin d'aller loin, je veux dire, t'as pas besoin d'être perdu. Tu vas, bon, moi j'habite au centre-ville à côté de la plus grande Migros de Lausanne, donc il y a un grand rayon que j'ai vu personnellement évoluer déjà en 4 ans sur justement les simili carnés. Mais tu vas à Échallens, il y a peut-être du tofu. Non, il y a toujours un ou deux trucs, mais c'est pas du tout les mêmes rayons.
Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'en Valais, même dans des relativement grandes surfaces, je trouve que les simili-carnés, ok, ils sont là, mais tout le côté fromage vegan et tout, beaucoup moins, tu vois. Il y a ce truc de protéger la culture, le patrimoine local aussi.
Ouais.
De se dire, non, mais on veut pas de ça chez nous, tu vois.
Ouais.
C'est n'importe quoi. Genre, la viande, on peut peut-être concevoir, mais le fromage, non.
Là, faut pas déconner. la raclette vegan, vous oubliez.
Hier, j'ai eu un coup de cœur, en fait, de fou, parce que j'ai organisé un événement avec SwissVeg, et on avait notamment Alice Fauconnet, qui est la cofondatrice de New Roots. Ah. Donc la fromagerie, crèmerie végétale suisse, qui a fait une présentation.
Ouais.
Et en fait, dans sa présentation, elle expliquait qu'ils ont un projet juste magnifique, de circularité juste incroyable, où en fait, en Suisse alémanique, il y a une ferme qui s'appelle Hofnar. En fait, c'est un sanctuaire pour animaux, ferme vegan et tout ce que tu veux. Et leur projet s'appelle Transformation. Et donc eux, dès le moment où des agriculteurs, agricultrices qui font de l'élevage et qui veulent arrêter l'élevage ne savent pas comment faire, ils peuvent se tourner vers cette association qui va en fait les aider à faire toute leur reconversion professionnelle. Ils vont aller dans la ferme, ils vont voir qu'est-ce qu'ils peuvent planter éventuellement, enfin ils vont vraiment essayer de les aider au maximum pour qu'ils puissent arriver à avoir une exploitation qui soit rentable et qui soit dépourvue de souffrance animale. Et en fait, ce que New Roots fait, en fait, c'est qu'elle s'intègre dans ce processus, vu qu'eux, ils aimeraient vraiment réussir à produire du fromage végétal avec des ingrédients locaux, parce que pour l'instant, ils travaillent avec des noix de cajou, qui sont tout à fait fair trade et tout, mais quand même qui viennent de relativement loin. Et en fait, ils ont pour projet d'utiliser du lupin, et le lupin, il peut être fabriqué, enfin, produit en Suisse. Donc en fait,
c'est quoi le lupin ?
C'est une céréale. En fait, l'idée, c'est de produire du fromage végétal à base de lupin. Et en fait, donc, ils vont se mettre en contact avec les personnes qui auparavant faisaient de l'élevage et qui ont décidé de renoncer à ça et qui savent peut-être pas trop quoi faire maintenant avec leur exploitation. Ces personnes, elles vont produire du lupin. Le lupin va servir à produire du fromage végétal. Donc en fait, la boucle est bouclée, en fait. T'as beaucoup d'agriculteurs et agricultrices qui sont dans un désespoir total. Il y en a plein qui se suicident très fréquemment, en fait. Enfin, c'est vraiment, ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Vraiment, c'est une situation qui est très difficile, et il y en a plein en fait qui font ce qu'ils ont appris à faire depuis toujours, mais qui sont pas forcément bien avec ça, qui arrivent pas à vivre avec ça de manière sereine, en fait, qui arrivent pas à dormir quand ils doivent abattre leurs animaux, qui voient comment ils les traitent et qui trouvent pas ça juste, mais qui arrivent pas à faire profit autrement. Ils arrivent pas à joindre les deux bouts parce qu'ils doivent absolument être rentables, donc ils sont obligés d'entasser les animaux, ils sont obligés d'aller vite. Enfin, c'est vraiment la production industrielle qui est très très difficile à faire, même pour eux. Donc il y en a plein qui aimeraient sortir de ce système, puis ils savent pas comment, parce qu'en Suisse ils ont des subventions aussi pour leur production, mais pour la production de légumes, etc., il y a quasi pas de subventions. C'est vraiment beaucoup beaucoup pour la production de viande et de produits animaux. Donc en fait, c'est très dur de se sortir de ça quand on est dedans. Donc pour les aider, New Roots offre une aide financière et ensuite va les mandater directement pour produire de manière continue du lupin pour faire son fromage. Donc je trouvais que typiquement ce genre d'entraide aussi, c'est juste incroyable, et c'est vers ça en fait qu'il faut tendre, c'est vers un monde comme ça, c'est vers de la circularité, c'est enfin des projets comme ça pour aider les gens à s'en sortir et les inclure dans nos efforts et pas juste les laisser tout seul à leur dire oui, la viande c'est mal, les produits animaux c'est mal, puis ensuite on leur donne aucune solution. C'est important d'arriver avec des choses comme ça.
Moi, ça m'avait trop choqué quand tu m'avais dit que la viande n'est pas rentable, en fait, parce
que non.
Je pensais que c'était un de ces trucs où ça persiste parce que c'est de la thune, et en fait elle est méga subventionnée, et je pensais pas du tout. Je pensais vraiment que c'était dur de s'en défaire à cause de l'argent, mais en fait c'est beaucoup plus grave que ce que je pensais comme situation.
Oui, je crois que, sauf erreur, il y a plus de 80% des subventions agricoles qui sont allouées à la production de denrées d'origine animale. Et mmh. ça inclut la production de fourrage aussi pour les animaux.
Ouais.
En fait, jusqu'à l'année passée, ou jusqu'à cette année, en fait, la culture de légumineuses destinées à la consommation humaine n'était pas du tout subventionnée. Et ça, elles étaient subventionnées, en fait, que si ces légumineuses étaient destinées aux animaux d'élevage.
Wow.
Alors voilà, ça vient de changer. La réglementation vient juste de changer. Mais tout ça pour dire qu'on en est, on est encore très loin d'une espèce d'égalité entre les produits animaux et végétaux. Et donc si, en fait, on mettait le vrai prix de la viande en rayon, il y a beaucoup moins de gens qui en consommeraient. Et au contraire, les produits simili-carnés, etc., ben, ils sont produits à une plus petite échelle. C'est encore un peu en test, c'est encore en train de devenir meilleur. Les recettes, elles sont affinées, elles sont améliorées au fil du temps. Et plus la production, elle pourra être massive, plus le prix pourra baisser aussi. Enfin, si un jour, on arrive à prix réel, en fait, entre la viande et les simili-carnés vraiment face à face sans subvention, on verra tout de suite que les simili-carnés sont vraiment beaucoup plus bon marché, en fait.
Ça m'est arrivé typiquement l'année passée, je crois, de manger de la viande et un burger pour en arriver à la conclusion que, en fait, je vois vraiment pas la diff, quoi. Enfin, je suis vraiment là, tout ça pour ça. Enfin, ça vaut pas la peine.
Non.
Vraiment.
Mais viande hachée, nuggets...
Les trucs en sauce, mais qu'est-ce qu'on s'en fout,
tout ce genre de choses... Tu ne sens pas la différence, donc ça sert à rien d'aller acheter la vraie, entre guillemets, version, c'est sûr. Après, je vais jamais recommander aux gens de manger des simili-carnés tous les jours et tout. Je pense que c'est important aussi d'apprendre à cuisiner avec des aliments bruts, non transformés et tout, et c'est toujours mieux, mais quand même, ça dépanne toujours d'avoir accès à ça, et je trouve ça cool d'avoir beaucoup plus de choix à l'heure actuelle qu'il y a 10 ans.
Même sans le simili-carné, t'as des burgers vegan vraiment sur base de betterave ou quinoa qui sont juste excellents, trop bons.
Oui.
Et puis, j'ai mangé un bol, les donburi, là, japonais, aux champignons portobello.
Ah,
T'as comme des nuggets, en fait, mais c'est un champignon dedans.
Ouais.
Tellement bon.
Oui, typiquement, un truc frit, en fait, c'est bon.
Oui, c'est ça.
En vrai, il n'y a pas besoin d'avoir de la viande dedans.
C'est ça, c'est gras, c'est salé.
Ouais.
Elio, toi, t'avais dit aussi un truc la dernière fois qui m'avait un peu marqué, et tu parlais de la vie, en fait, de ces gens qui vont abattre des animaux tous les jours, et qu'infliger la violence que ça fait aux personnes. Est-ce que tu veux un peu parler de ça ?
Je commencerai par dire, t'as beaucoup parlé avec l'écoféminisme, etc., de c'est les hommes, principalement, hein, les hommes cis, qui exercent une domination sur, notamment, les animaux. Et en fait, dans les professions qui exercent la domination sur les animaux, on voit en effet qu'il y a plus d'hommes. C'est autant dans les éleveurs, d'ailleurs il y a aussi un épisode de des couilles sur la table, c'est les couilles à la ferme, c'est en deux épisodes, et c'est aussi super intéressant, même si ça parle pas forcément de véganisme. Les éleveurs, et puis vraiment les personnes qui abattent, qui sont genre boucher charcutier, j'ai pas trouvé d'autres dénominations en Suisse, le CFC qu'on doit faire, je crois que c'est celui-là. Tous ces métiers-là, c'est principalement des hommes qui les exercent, c'est des milieux très masculin aussi dans les interactions, le truc où, bah, par exemple, une femme agricultrice qui est en fait éleveuse, on va lui demander « Il est où votre mari ?» un peu, elle s'occupe sûrement plutôt de l'agriculture végétale, et puis, voilà.
Ou d'administration.
Ou de l'administration, ouais. Et puis, alors... Ouais, moi, ça me pose vraiment question au niveau des personnes, t'en parlais. En fait, les personnes qui passent leur vie à abattre des animaux ou à devoir couper des morceaux de leurs animaux, t'avais parlé du bec, il y a les cornes, il y a les trucs, en fait, toutes des choses qui les font souffrir et qui passent leur vie à infliger de la souffrance contre de l'argent.
Ouais.
Enfin, les personnes qui font l'abattage, c'est des professions apparemment terribles pour la plupart des personnes qui les exercent et qui font pas long feu avant de changer de métier parce que comment est-ce qu'on peut être contre la violence et dire qu'il faut pas dominer les gens autour de soi, et puis à côté de ça avoir des personnes qui passent leur vie à littéralement abattre des animaux qui crient, qui se débattent, et comment est-ce qu'après on peut rentrer et avoir envie de prendre soin des personnes avec qui on vit, ouais, moi ça me pose vraiment question sur est-ce qu'on peut accepter des violences aussi atroces d'un côté et puis refuser d'autres violences sur des êtres qui sont pas si différents que ça au final ?
Il y en a plein, au bout d'un moment, ils n'y arrivent plus. Et justement, il y a déjà maintenant au moins une centaine de personnes qui ont fait une reconversion professionnelle, qui avant faisaient de l'élevage et qui maintenant ont complètement arrêté. Soit ils ont une ferme 100% végétale, soit ils se sont tournés vers un autre corps de métier, ils font autre chose. Typiquement dans la région vaudoise, il y a un couple qui a fait cette transition assez récemment. Et ils ont ouvert leur boulangerie végétale qui s'appelle Au Pain Sans Peine.
Ah oui, j'ai vu sur We Make It.
Et donc ces deux projets, Au Pain Sans Peine et le Centre Équinescence, c'est des personnes qui se sont adressées à l'association Coexister à Frenières-sur-Baie pour faire cette reconversion vers un mode de vie sans exploitation animale, en fait. Et typiquement, les Au Pain Sans Peine, voilà, ils continuent à faire de la production alimentaire comme ils en faisaient avant, parce qu'avant, ils faisaient déjà de la boulangerie, mais artisanale, mais tout ce qui était lardons, etc., c'était produit dans leur propre ferme. J'imagine bien, oui, le lait, les œufs, etc., aussi. Et maintenant, voilà, ils ont vraiment changé leur démarche, et de fond en comble, ils ont tout végétalisé, en fait, et je trouve ça super de voir que c'est possible. Et dans le témoignage de Stéphane, qui est justement le patron... Enfin, c'était juste hyper émouvant, en fait, de l'entendre, de dire, en fait, moi, au bout d'un moment, je pouvais plus, mais mes cochons, je les regardais, ils ont vraiment un regard humain. J'avais l'impression que ils sentaient très bien quand j'allais les amener à l'abattage. Au bout d'un moment, je pouvais même plus y aller, je devais demander à d'autres personnes d'y aller, j'arrivais plus à dormir, j'étais pas bien, enfin... Et en fait, c'est des témoignages qui reviennent souvent.
Ouais.
Et enfin, il y a vraiment de plus en plus de personnes que ça touche. Et je trouve ça vraiment super que maintenant, ils arrivent à en parler en public, c'est parce que plus tu vois des exemples de personnes qui... ont ressenti la même chose que toi et qui ont décidé de changer et qui ont réussi, plus ça peut te donner espoir à toi aussi, en fait, de faire la même chose.
Ouais.
Donc, il y a des documentaires qui circulent sur ça. Il y a justement ce deuxième sanctuaire en Suisse alémanique qui fait la même chose, qui s'appelle Hofnar. Et enfin, voilà, il y a de l'aide, en fait, qui commence à se développer. Et maintenant, Virginia Marcus, donc de l'association Coexister à Frenières-sur-Baie, a lancé une nouvelle asso qui est en fait une sorte de branche française de son asso, et c'est en collaboration avec d'autres associations françaises, et le but c'est de mettre en place ce même système d'aide aux personnes qui veulent se reconvertir mais en France, parce que là-bas en fait la demande elle est aussi présente mais il y a encore personne pour les aider. Donc ça se met en place, ça s'appelle Terre en Transition, et ça a été annoncé je crois cette semaine que c'est en train d'être créé, donc c'est super. Il y a vraiment un mouvement en fait qui se met en place pour dire, ben, on veut pas pointer du doigt ces personnes qui font ces métiers-là, parce qu'on conçoit bien que c'est des métiers hyper difficiles et que c'est dur de s'en sortir. Et en fait, on aimerait plutôt leur donner des outils pour les aider, puis s'orienter ensemble vers des solutions.
En fait, c'est pas du tout nouveau que les gens se sentent comme ça, c'est que maintenant, on peut en parler. Et j'ai pensé à ma tante, enfin, elle n'était pas paysanne, mais ils avaient quelques moutons à la maison, au nord de l'Albanie. Puis elle m'avait dit que quand je les amène chez le boucher, elle me disait, mais je pleure pendant tout le chemin.
Oh.
Ouais. Et en fait, c'est horrible, quoi. Elle pleurait, et puis bien sûr qu'on l'a traitée de meuf transsensible.
Oui, bien sûr.
C'est comme ça. Et t'avais pas du tout la possibilité de remettre ça en question.
On te dit, c'est comme ça, on a toujours fait comme ça.
C'est ça.
C'est comme ça et pas autrement. C'est difficile de changer quand on a cette perspective-là, en fait.
Ouais. Ouais, c'est vraiment dur. On a déjà parlé de l'écoféminisme. Est-ce qu'on peut poser peut-être quelques définitions et juste vraiment parler de l'antispécisme qu'on a juste mentionné ? Je ne sais pas si Amandine ou Elio ou Coco vous voulez prendre.
L'antispécisme, c'est donc le mouvement qui s'oppose au spécisme, qui est la domination de l'espèce humaine sur les autres espèces.
Voilà. Tout est dit.
Et tu sais de quand il date comme mouvement ou quand ça a été nommé comme ça ?
Les questions végétariennes, enfin la question de tuer les animaux, ça c'est quand même super vieux. Parce que me demande s'il n'y a pas déjà des gens à l'Antiquité qui étaient végés, qui étaient en mode... Philosophiquement, c'est quand même un peu difficile d'abattre des animaux qui pleurent. Voilà. Pour l'antispécisme, je ne sais pas de quand date ce mot. Si mes souvenirs sont bons, c'est surtout au 19e siècle, dirais, que les luttes pour les animaux, mais qui commençaient par des revendications beaucoup plus atténuées que celles qu'on a maintenant. Mais j'ai vraiment l'impression comme ça du 19e siècle où il y a les premiers vraiment mouvements des grandes têtes qui vont défendre le végétarisme et puis les questions d'éthique animale.
La notion d'antispécisme, elle est quand même venue bien après les notions de végétarisme. Et il y avait des premières associations végétariennes qui se sont mises ensemble et qui ont commencé à avoir des revendications. Mais la notion d'antispécisme, après la notion par exemple d'abolitionnisme, tout ça c'est venu quand même bien plus tard. Mais maintenant c'est ce qui est le plus présent, j'ai envie de dire, dans ces mouvements-là. C'est devenu beaucoup plus clair et radical la position qu'on peut avoir. En fait, on ne va pas se contenter de dire « oui, il faut améliorer les conditions d'élevage ». C'est « non, on ne veut plus d'élevage, en fait ». On ne veut plus continuer à consommer comme ça, on ne veut plus continuer à produire comme ça. On veut repenser la société vraiment à la racine.
C'est ça que ça désigne l'abolitionnisme. C'est vraiment l'abolition de l'élevage, tandis qu'on pourrait l'opposer au réformisme, où on essaye d'améliorer les conditions et puis... Ouais.
J'ai l'impression qu'au début, le mouvement, c'était plutôt du coup réformiste, tu vois, et que maintenant, c'est devenu beaucoup plus fort. La voix de l'abolitionnisme est devenue beaucoup plus forte dans les discours. Je sais pas ce que t'en penses.
J'ai cette impression aussi, mais je suis quand même relativement jeune.
Oui, je dis ça aussi, pareil, hein, dans ce que j'ai pu lire, tu vois, mais pas...
Peut-être pour arriver vers la fin, Enfin, quels seraient, par exemple, tes conseils des gens qui veulent peut-être changer de régime alimentaire, mais qui ont des craintes liées à la santé?
Alors, vraiment, n'ayez pas peur. Voilà, comme on l'a dit, dans le cadre d'un régime végétalien, la carence à laquelle il faut faire le plus attention, c'est la vitamine B12, donc c'est vraiment le supplément à prendre impérativement. Donc ça, vous pouvez aller en pharmacie, demander, puis c'est un truc que vous devrez prendre une fois par jour. Si c'est moins bien dosé, vous pouvez prendre deux fois par jour. Voilà.
Enfin, il y a aussi des trucs qui se prennent toutes les semaines ou tous les mois.
Oui, c'est vrai. En fait, ça peut être plus fortement dosé, mais c'est juste que le corps, en fait, il est capable d'absorber qu'une certaine quantité. Puis ensuite, ça va juste rester dans l'organisme. Puis petit à petit, le corps va en reprendre un petit peu, comme ça. Mais c'est pas grave d'en avoir une grande quantité dans l'organisme, parce que de toute façon, c'est éliminé avec l'urine, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de surdosage possible par rapport à d'autres choses comme le fer, par exemple. Voilà. Ensuite, en fait, si on a une alimentation vraiment bien équilibrée et complète, il n'y a pas de souci de carence. Il faudrait en gros que la moitié de l'assiette, de manière générale, je n'ai pas tous les jours l'assiette, mais par exemple sur la semaine, que la moitié soit des légumes, que deux tiers soient des féculents, et que un tiers, le tiers restant, soit des sources de protéines alternatives, donc ça peut être les légumineuses ou le tofu, le tempeh, etc.
Ou les oléagineux, non ? Les graines, les fruits secs, il y a aussi des protéines dedans.
Oui, ça c'est plus un truc par-dessus, je dirais, mais ça ne va pas forcément... Enfin, ça peut compter là-dedans aussi. Après, il y a une pyramide alimentaire vegan qui a été faite par PETA France. Et là, je peux vous inviter à vraiment l'ouvrir et la consulter, puis elle est hyper, hyper complète. Puis, ouais. Donc en fait, en gros, c'est juste de s'alimenter aussi de manière variée, équilibrée, etc. Et puis ensuite, au niveau des compléments qui peuvent être intéressants pour tout le monde, donc que qu'on soit vegan, qu'on soit végétarien, qu'on soit même omnivore, en fait. C'est, par exemple, pour la Suisse, notamment, enfin, pour les personnes qui vivent en Europe, la vitamine D, que normalement, on crée quand on est en exposition au soleil, mais en fait, c'est entre les mois d'octobre à mars, le soleil, il est à un angle tel qu'on n'arrive pas, en fait, à en créer nous-mêmes, donc dans le corps. Donc, si on veut en produire, il faudrait se complémenter à ces moments-là. Sinon, l'oméga-3, ça peut être un complément intéressant pour tout le monde, parce qu'on n'en consomme pas forcément assez. Et puis, le sélénium, potentiellement, aussi. Mais ça, en fait, c'est des recommandations. Je vous dis ça comme ça, c'est de manière générale pour toute la population, mais ça ne veut pas dire que je le fais forcément ou que tout le monde doit absolument le faire, si on veut vraiment avoir un bilan absolument irréprochable. Mais en fait, ce que les médecins disent beaucoup, c'est que les personnes végétariennes ou véganes qui viennent faire des bilans sanguins chez eux, en fait, c'est presque inutile parce que c'est toujours les personnes qui ont les meilleurs bilans sanguins, quoi.
Ah ouais.
Parce que, en fait, quelqu'un qui mange beaucoup trop de viande rouge, etc., ils auront beaucoup plus de problèmes, non pas forcément de carence, mais de surdosage, d'excès de certains nutriments.
Donc c'est ça, en fait, c'est pas comme si tu vas être végane, t'auras des problèmes d'équilibre, parce que si tu manges trop de viande, t'as aussi des problèmes.
Enfin, c'est ça, il y a énormément de problèmes qui sont liés à l'alimentation. En fait, toutes les maladies civilisationnelles, comme on dit, c'est-à-dire le diabète de type 2, les troubles cardiovasculaires, en fait, c'est beaucoup, beaucoup lié à l'alimentation, et surtout à la surconsommation de produits animaux, en fait. Ouais. Donc la plupart du temps, les personnes végétariennes et véganes sont en meilleure santé.
Donc
je dirais pas vraiment aux gens d'avoir peur de ça, en fait. Ouais. Juste se supplémenter en B12, et si on a peur, bah, ne pas hésiter à aller voir un ou une nutritionniste. Après, il faudrait peut-être choisir quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en alimentation végétale, parce qu'il y a juste des personnes qui sont réfractaires à l'ancienne et qui vont peut-être décourager pour rien. Mais il y a des listes, par exemple avec SwissVeg, on a une liste d'experts et expertes en santé, donc ça peut être tous les domaines de la santé, qui sont, disons, pas anti-vegan. Donc on peut aller consulter ces personnes. Il y a aussi, je crois qu'il y a des psychologues ou psychiatres, il y a, enfin, dans la nutrition, il y a médecins généralistes, toutes sortes de personnes qui sont référencées sur cette liste, qui est assez facile. On peut taper sur Google SwissVeg, liste experts en santé, et normalement on trouve ça assez facilement. Par exemple, ça peut être une bonne idée.
Puis tu avais dit aussi des choses très intéressantes par rapport à la carence en fer, parce que moi j'ai mentionné une amie qui a de la carence en fer, et tu avais plusieurs conseils sur comment mieux absorber le fer.
Un truc hyper intéressant que j'ai appris entre temps aussi, c'est pour tout ce qui est les lentilles, par exemple, c'est souvent présenté comme un aliment qui est riche en fer, et c'est le cas, mais en fait, selon le type de lentille, elles ont aussi beaucoup de phytates, et en fait, les phytates empêchent l'absorption du fer des lentilles. Donc un truc intelligent à faire quand on cuit des lentilles, c'est, avant de les faire cuire, justement, de les laisser tremper. Et typiquement, pour des lentilles corail, le temps de trempage va être moins long. Pour des lentilles plutôt vert foncé, noir, etc., ça va être plus long, faudra laisser quand même 4 heures, etc., et en fait, vraiment, ben, laisser tremper pendant tout ce temps-là, ensuite bien les rincer, et ensuite les préparer, Et typiquement, ça peut vraiment aider à booster en fait l'absorption du fer qu'il y a à l'intérieur. Et aussi de lier ça avec de la vitamine C. Donc typiquement avec un aliment comme des poivrons, ça peut être vraiment bien. Et puis ce qui est aussi important, c'est de pas boire du café ou du thé dans les 2 heures avant et 2 heures après, parce que ça va aussi inhiber l'absorption du fer. Donc il y a plein de petits conseils comme ça. Dans la prochaine brochure de Swissveg sur la santé, on va vraiment détailler tout ça. Donc si jamais aussi, je ne veux pas faire de la pub, mais j'ai traduit tout ça. Et c'est vraiment énormément de travail d'avoir traduit tout ça. Et pour chaque nutriment qui est considéré comme potentiellement critique dans l'alimentation végétale, en fait, on a vraiment fait une fiche de comment faire en sorte que l'absorption elle soit optimale, etc. Donc on met à disposition gratuitement. Donc vous pouvez voir le PDF en ligne, normalement. Et puis ensuite, vous pouvez commander, on peut vous en livrer. Enfin voilà, ça c'est aussi des ressources qui sont à dispo si jamais. Toutes nos nouvelles brochures, elles vont normalement être imprimées pour l'année prochaine.
Et puis aussi, ben moi je prends des compléments en fer parce que j'ai une carence, mais qui court dans ma famille depuis plusieurs générations, donc j'ai une carence en fer, mais en fait je m'y attendais. Et puis ben, je prends des compléments tous les jours, là, enfin, il y a des périodes où on fait une pause parce que le fer il est trop haut, et puis après ça redescend, etc. Et en vrai, je crois qu'on diabolise un petit peu l'idée de prendre des compléments, mais déjà moi, clairement, si je dois choisir entre... repasser à un régime où j'abats des animaux ou bien continuer à prendre mes compléments, je préfère juste prendre mes compléments. Et puis, comme je disais, si c'est une question d'écologie, de faire pharmacie, etc., de c'est pas bien, c'est artificiel, en fait, les animaux, beaucoup d'animaux sont aussi complémentés parce que leur alimentation est pas riche et variée. Donc, de toute façon, il vaut mieux que ce soit directement toi qui prennes le complément à choisir.
Oui. Parce qu'en plus, quand tu consommes l'animal, comme tu as dit avant, vu qu'ils ont aussi, ils consomment énormément d'antibiotiques, comme ils vivent entassés les uns sur les autres, les maladies se propagent très vite. En fait, ça peut créer des problèmes chez l'être humain parce qu'on fait que de consommer de la viande qui contient en fait des restes d'antibio et tout. Et en fait, on développe des résistances aux antibiotiques parce que notre corps s'habitue trop à ça. C'est aussi terrible. Donc en fait, il y a plein de problèmes liés en fait à l'alimentation même qu'on donne à manger aux animaux parce qu'ensuite nous on va manger la chair de l'animal. Donc en fait, forcément que ce qu'on lui aura donné comme fourrage, comme complément, etc., ça va avoir un impact potentiellement sur notre santé à nous aussi. Donc quand on prend un complément, on sait exactement ce qu'il y a dedans, quoi.
Et moi je trouve ça assez fascinant quand vous, en plus, je pense, en tant que végane, tu dis que t'es végane, je pense que les gens s'inquiètent entre guillemets très vite pour ta santé tout le temps, et t'es un peu là, mais en fait vous croyez que parce que tu manges de la viande tu manges sainement, c'est un espèce d'acquis que moi je mange de la viande, donc j'ai pas de carence ni rien, puis t'es un peu là, je sais pas.
Il y a un peu ce truc aussi de se vanter de pas manger sain et de se dire c'est marrant, mais ça c'est très adolescent encore.
Ah oui, c'est vraiment tellement puéril.
Vas-y, moi je fais ce que je veux, genre j'ai pas de règles à suivre et tout, puis en fait le truc c'est que c'est au détriment de ta santé, donc tu vas potentiellement t'en vouloir par la suite. Mais tu sais, je me suis dit ça aussi, peut-être qu'en fait il faut que je redéfinisse ma notion de mon love language, mais mon self-love language, tu vois. Genre, en fait, je me dis, ah, c'est trop bien, je m'accorde ce qui est interdit et tout, je me fais plaisir, je vais manger tout ce que je veux. Et en fait, toutes les barrières tombent, les barrières mentales de l'aliment qui est bon, pas bon, bien, pas bien. Je me dis, je m'en fiche et tout. Et en fait, j'ai l'impression de me faire du bien comme ça sur le moment, alors qu'en fait, je sais que c'est faux. Et c'est en fait ce truc de... En fait, c'est mon self-love qui est un peu fucked. Et genre, j'ai pas trop compris, en fait, que c'était pas une réelle manière de m'aimer. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt autodestructeur qu'autre chose, en fait. Mais j'ai tellement diaboliser peut-être certains aliments et tout, que sur le moment je me dis c'est bon, là je m'offre tout ce que je veux, je m'offre le monde en fait. Et peut-être que c'est aussi comme ça que ces personnes le voient, de se dire vas-y, je mange pas de légumes parce que c'est nul, et je m'offre toutes les patates que je veux et toute la viande que je veux parce que je le vaux bien et tout. Mais en fait ils se rendent peut-être pas compte que
tu te fais
derrière du mal. C'est ça, c'est pas vraiment de l'amour propre de faire ça, c'est plus l'inverse.
Trop intéressant. On arrive au bout. Je vais peut-être raconter une anecdote, mais par rapport à cette histoire d'abolitionnisme et versus réformisme, il y a quelques années, j'avais croisé une meuf végane qui, selon tous les clichés de la société, était extrémiste. Et je me rappelle que je lui avais fait la théorie réformiste. Je lui avais dit que moi, ça fait un moment que j'ai baissé ma consommation de lait, de fromage, tout ça, parce que j'avais la théorie que si tout le monde consomme moins, au moins les animaux vont être moins industrialisés. Puis elle m'avait répondu, mais c'est quoi ton affaire? Elle m'avait dit genre, une femme, on peut la violer une fois, mais tant que c'est pas dit, c'est OK. Et j'étais vraiment genre... Point. T'as raison, en fait. Il y a un côté... En fait, je raconte ça parce qu'il y a quelque chose que je comprends pas de la part des gens qui s'agacent trop et ils trouvent que les véganes sont trop extrémistes. Parce que moi, j'avais été face à quelqu'un qu'on pourrait trouver extrémiste. Et en fait, j'étais juste là, t'as raison, quoi.
Mais c'est ça, en fait.
Pourquoi on peut pas juste faire ce pas, en fait?
Là, tu touches le point, en fait. Toi, t'arrives à cette à cette humilité de te dire oui, en fait, c'est vrai, t'as raison, en fait, je pourrais faire ça, et en fait, pour mes propres raisons, ben, j'en suis pas à ce stade-là, mais je comprends ce que tu... Enfin, je comprends ta démarche et je la trouve légitime. Mais en fait, pour plein de personnes, le discours même de la personne végane, en fait, va être une menace à leur... paix intérieure, en fait. Ça va être une menace à l'ordre établi tel qu'il est dans leur tête, ça va briser le truc de la dissonance cognitive et ça va les forcer à faire face à leur choix de vie, à leur mode de vie. Et en fait, c'est très dérangeant. En fait, ça les bouscule complètement dans leur manière de vivre. Et en plus, l'alimentation, ça touche à quelque chose de très intime, en fait. Ça touche à comment tu prends soin de tes proches, ça touche aux rituels, aux traditions familiales, aux fêtes de fin d'année, par exemple, aux anniversaires et tout. Donc en fait, il y a ce truc-là de « je ne veux pas savoir, je veux pas être dérangé. » Et en fait, en tant que végane, t'arrives et tu te balades et tu leur dis « mais en fait, si, c'est possible, regardez, moi je le fais. Vous pouvez très bien en fait changer. Enfin, je suis la preuve vivante que je tombe pas malade, je suis pas morte, tout va bien dans ma vie. »
J'arrive pas clamser au milieu de la rue.
J'arrive à faire du sport, j'arrive à avoir une vie saine, normale et tout. Enfin, c'est possible de vivre vraiment en alignement avec ses valeurs, avec ses convictions et tout. Et en fait, voilà, on n'en meurt pas. Ces gens-là, ça les énerve de voir que c'est possible parce que ça les met face à leurs propres contradictions. Puis ils préféreraient juste ne pas savoir, enfin, ce truc-là de ne pas vouloir regarder le documentaire, de ne pas savoir. Et je pense que c'est ça en fait qui énerve vraiment les gens, qui fait que dès qu'ils sont en conversation avec une personne végane, ils sont tout de suite sur la défensive et tout. Et c'est ce côté-là de je veux même pas en fait savoir. Et en fait, c'est dommage, mais je pense que c'est aussi très humain de parce qu'il y a tellement de choses sur Terre qui vont mal que des fois on aimerait juste pouvoir faire de son mieux et pas être au courant de tout ce qu'on fait faux. Et parce qu'on nous dit toujours qu'on fait quelque chose de faux, que ce soit pour l'écologie, pour tout ça, en fait. Donc je comprends aussi, et en fait, tout ce que j'ai envie de dire à ces personnes, c'est que c'est pas toujours noir ou blanc. C'est soit tu es végane, soit tu es un monstre, ou je sais pas quoi. Enfin, non. Et en fait, de faire des pas sur le chemin de la végétalisation de son alimentation, c'est déjà super de juste être... de juste renoncer, par exemple, à la viande, puis de garder encore le poisson et tout. Enfin, chacun fait les pas dont il a besoin. Chacun avance à son rythme, et si juste de temps en temps, t'arrives à te dire, vas-y, cette fois, je vais acheter le hachis parmentier végétal au lieu de prendre l'autre, voilà. C'est déjà toujours ça de prix pour les animaux. Puis je pense que pas à pas, on peut y arriver.
Merci. Et moi, je trouve que tu touches au sujet de la volonté de changer, la capacité de changer, de l'agacement du changement. Moi, j'aimerais juste dire qu'en fait, c'est méga chouette de changer. C'est clair que depuis que je suis devenue végétarienne, j'ai aussi arrêté l'alcool pour d'autres raisons. Et il y a aussi d'autres changements dans ma vie. D'ailleurs, c'est bientôt les fêtes de Noël. On va tous retourner en famille. Il y aura plein de plats liés à la tradition. Je pense qu'on va toutes et tous se prendre des commentaires sur nos régimes alimentaires. Et voilà, tout ça. Et en fait, oui, tu te prends petit peu ça dans la gueule, mais en fait c'est méga, méga chouette de changer. Moi j'en parlais à Coraline que depuis que je bois plus d'alcool et depuis que je mange pas de viande, la sensation à mon propre corps a vraiment changé. Déjà moi j'ai un problème avec le sucre, quand tu parlais avant de se faire plaisir, tout ça, moi c'est le sucre, et actuellement vraiment je sens l'impact que le sucre a sur mon corps et sur mon humeur. Et avant j'étais pas capable de sentir ça parce que j'étais un peu comme détachée de mon corps, et puis je sais pas, j'étais dans d'autres délires, et je trouve ça méga chouette. En fait c'est cool d'être toujours dans la découverte, c'est méga bateau ce que je dis, mais c'est génial, sinon on fait quoi?
Moi, je voulais redire aussi par rapport à ça que je pense que c'est important de rappeler qu'actuellement, dans notre société, c'est principalement les femmes qui ont la charge mentale de qu'est-ce qu'on cuisine, qu'est-ce qu'on achète, etc. Et de rappeler à toutes les femmes et les personnes qui ont la charge mentale dans leur vie que c'est OK de se dire « je vais prendre ce que je peux » et puis à un moment d'arrêter de vouloir faire la façon la plus parfaite possible, surtout qu'il y a beaucoup d'injonctions envers, en particulier les mères, de bien avoir une bonne alimentation pour leurs enfants, etc. Et je pense que c'est déjà largement suffisamment compliqué, si jamais en contraignant. Donc de se dire aussi, rappelez-vous que ce que vous faites pour vos valeurs, c'est trop cool, mais que vos valeurs, c'est aussi se respecter soi, et donc respecter qu'à un moment, on ne peut pas tout faire. Moi, j'avoue que je consomme de l'alimentation pas très éthique parce que j'arrive pas à faire et vegan et fair trade et machin et gérer ma vie comme ça, et donc du coup moi j'aime bien les grandes surfaces, j'ai plus de mal avec les petits magasins pour mes raisons personnelles. Du coup j'ai décidé que tant pis, j'allais faire comme je pouvais, et puis je trouve que vegan c'est facile parce qu'il suffit de regarder la liste des ingrédients, tandis qu'un label fair trade tu sais jamais si c'est un vrai ou un faux. À part dans les magasins du monde, je sais jamais sur quoi je vais tomber, donc voilà, j'ai fait mes choix. Et je pense que c'est à tout le monde aussi de se rappeler que faut juste faire ses choix en conscience, et puis après accepter d'avoir des moments où on va pas faire exactement parfaitement comme on aurait pu vouloir.
Magnifique.
Plus ou moins dans le mot de la fin aussi, juste rappeler aussi que, en fait, pour l'instant, dans ce podcast, on a parlé principalement de végétalisme, donc vraiment juste de l'alimentation végétale, mais qu'en fait, le véganisme, ça inclut tout le mode de vie de manière générale. Mmh. Donc, tout ce que tu peux acheter comme produits cosmétiques, comme produits de ménage, comme vêtements, le type de housse que tu prends, si tu prends enfin, un duvet avec des plumes dedans ou non, enfin, c'est très très vaste, en fait. Puis c'est aussi cautionner, par exemple, ne pas cautionner les eaux, ne pas cautionner le cirque avec des animaux, enfin, voilà, toute l'exploitation animale dans son ensemble. Et évidemment, ça peut aussi sembler un peu intimidant au début quand on veut se lancer là-dedans. Donc, de nouveau, j'ai envie de souligner le fait qu'on n'est pas parfait, qu'il y a toujours un moment donné où on doit faire un choix entre ce qui est possible juste logistiquement, financièrement, etc. Et en fait, voilà, il vaut mieux qu'il y ait plein de véganes imparfaits plutôt que quelques véganes hyper hardcore, super parfaits, ouais, qui font tout tout juste. Ouais. Parce qu'en fait, c'est presque impossible dans notre société de faire toujours tout tout juste. Donc, c'est important de se lâcher aussi un peu du lest et d'être autant végane que ce qui est possible.
Coraline, est-ce que toi, t'aurais un mot de la fin ?
Moi, j'ai envie de continuer sur les autres mots de la fin et sur l'imperfection en général, ouais, parce que je suis en mode « Look at me ! Je mange plein de trucs !» Et en fait, tu fais de toute façon la différence, effectivement, et puis il faut arrêter avec ce côté activiste parfait, parce que, comme tu l'as dit, il vaut mieux avoir plein de véganes imparfaits que des véganes parfaits qui font chier tout le monde parce qu'ils sont plus intenses, ou j'en sais rien, de toute façon, c'est juste qu'il y en a moins. C'est vraiment par petites étapes, et puis on enlève cet aspect perfectionniste du « si je fais rien, enfin si je peux pas le faire parfaitement, autant rien faire ». Ça fait pas de sens, en fait. Mmh. Et puis que tu peux voilà, te lancer petit à petit, et puis quitte à faire veganuary, et puis juste essayer une fois, et puis après ça ouvre tes horizons à des recettes que tu remettras en plus, et puis que tu ajouteras dans tes rotations de repas, et puis petit à petit tu te... tu découvres des nouvelles choses, en fait, aussi. Et c'est vraiment... Il y a vraiment beaucoup de... Il y a beaucoup de bonheur à trouver dans la découverte et puis changer, en fait.
Parce qu'on a beaucoup parlé du simili carne, mais en fait, il y a plein de recettes magnifiques qui sont complètement en dehors de cet équilibre de l'assiette féculent légumes viande. Mm-hmm. Mais vraiment, genre des currys indiens, des poivrons farcis. Enfin, il y a plein de recettes qui n'ont rien à voir avec la viande, qui sont juste trop, trop bonnes.
Ouais, c'est clair. Et puis aussi, tu réalises qu'il y a plein de plats que tu peux manger qui sont végétariens déjà à la base. Et puis moi, cette année, ma mission, c'était d'apprendre à cuisiner du tofu parce que justement, je connaissais. Enfin, hein, j'utilisais beaucoup les simili carne et puis je faisais un peu rien d'autre avec. Enfin, le tofu, j'étais un plat. Et je suis assez fière de moi.
Yes.
J'ai trouvé des bons résultats.
Bravo. C'est hyper fun le tofu.
Ouais, c'est très versatile et c'est super.
Trop cool, c'était vraiment cool.
Ouais, c'était trop bien.
Ça fait trop plaisir.
Merci Elio de t'être proposé pour ça.
Merci d'avoir accepté. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir revenir et puis en étant plus part de l'organisation. Merci Amandine d'avoir répondu à mon appel.
Avec grand plaisir. Je suis contente, super contente d'avoir osé répondre. Au début, je me suis demandé si j'étais la bonne personne pour ça, si j'allais être suffisamment éloquente et tout, si j'avais suffisamment de connaissances en féminisme pour venir sur ce podcast en particulier. Finalement, très contente d'être là. Ouais.
Finalement, t'as écouté un de nos épisodes, tu t'es dit « Non, mais je peux faire pareil.
» J'avais mis dans mon message quelque chose genre « C'est vraiment pas trop prise de tête, on se pose dans le salon et on discute. »
C'était Les Poissons sans bicyclette, un podcast indépendant à Lausanne qui a un Patreon auquel vous pouvez souscrire pour seulement à partir de 5 francs par mois et avoir déjà du contenu exclusif. Et puis merci d'avoir écouté.
Merci pour votre écoute et merci pour votre présence aux personnes qui étaient là.
Merci.
Merci.
Ciao, Nadine.
Ciao, ciao.